en a qui sont très studio là.
Oui, sur les affiches, ceux qui ont vu les affiches, on vous avait promis pour vous allécher une distribution gratuite de graines. Donc attention, c'est illégal. Certaines de ces graines sont interdites, je vais en parler. Donc si jamais les gendarmes vous attrapent avec ces graines et que la répression des fraudes les accompagne, vous risquez une très grosse amende. Non, ça c'est pour faire peur, c'est pour donner un peu de piment à la chose. Donc, on va voir que c'est pas si simple, hein, mais il y a quand même un problème au niveau des semences. Donc ce soir, j'ai prévu de baser l'exposé sur trois parties, en gros. La première partie, c'est un peu l'historique de la semence, pratiquement de l'âge des cavernes jusqu'à maintenant, en passant par tous les stades qui sont qualifiés de progrès, entre guillemets. Et donc ça, c'est à chacun de juger où est le progrès. Si tout dépend du point de vue que l'on adopte, c'est-à-dire est-ce que le progrès, c'est gagner plus d'argent, est-ce que c'est mieux vivre, est-ce que c'est être en meilleure santé, etc. Donc en fonction du point de vue qu'on a, vous serez à même de juger vous-même si vraiment on a fait des progrès ou pas, et si les progrès ont été constants au cours de l'histoire. Donc il y a une... donc on verra un peu une partie historique, puis parlant de la semence, il faudra quand même préciser ce qu'est une semence. Donc je donnerai quelques définitions de comment, quels sont les différents types de semences et éventuellement comment on les obtient. Et puis enfin, on va parler de ce qui fâche, c'est-à-dire la réglementation, puisque c'est là que se pose un problème, puisque les semences à l'heure actuelle sont l'objet d'une réglementation qui est très rigoureuse, répressive, et qui n'est pas digne d'une démocratie. Donc c'est presque une conclusion que je vous donne en introduction, mais vous allez voir, pareil, vous jugerez par vous-même si, à votre avis, la réglementation, elle est acceptable, ou disons si elle est discutable, et donc si on peut soutenir tous les gens qui s'opposent à cette réglementation. Donc on a déjà parlé du réseau Semences Paysannes. Il s'agit d'une association qui fédère tout un tas de groupes de paysans et de non-paysans, des associations donc qui ont un rapport de près ou de loin avec la semence. Donc le réseau Semences Paysannes donc fédère un mouvement qui s'appelle... Enfin, il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Semons la biodiversité et qui vient de naître sur l'initiative des amis de José Bové, c'est-à-dire les faucheurs volontaires. Donc, le fauchage volontaire des OGM peut être discutable, la distribution de graines, le semis de graines n'est pas discutable, je veux dire, c'est autant l'un peut être jugé comme négatif, autant l'autre façon d'agir. Et forcément, retient l'adhésion de tout le monde. Puisque les graines, a priori, on pense bien que tout ce que c'est un bien commun, et donc on peut les partager, les donner, les échanger, etc., librement. Il n'y a pas de mal à ça. Et on le verra, la loi est en désaccord avec l'opinion publique. Alors, historiquement, les semences... à quel moment est-ce qu'on a commencé à faire des semences? On pense que c'est au néolithique, c'est-à-dire il y a entre 10 et 15 000 ans. Les choses sont bien sûr très difficiles à dater, puisqu'il faut trouver la preuve qu'à certaines époques, avant l'histoire, donc dans la préhistoire, il y a eu des domestications de plantes, donc il faut trouver des semences, et ces semences ont du mal à se conserver parce que elles ont tendance à pourrir. Donc ces semences, on les retrouve très souvent dans des endroits qui sont très secs ou au contraire très humides. C'est-à-dire que quand c'est très sec, il n'y a pas assez d'eau pour que ça pourrisse, et quand c'est très humide, au contraire dans les marécages, très humide, très acide, ça ne pourrit pas parce que là, il n'y a pas des bonnes conditions pour que les microbes se développent. Par exemple, on a retrouvé des corps humains pratiquement entièrement conservés dans des tourbières dans le nord de l'Europe, en Écosse. Et pour les semences, c'est pareil. Autre façon aussi de les conserver, c'est quand elles sont calcinées. C'est-à-dire quand les gens faisaient la cuisine, ils faisaient un feu, ils faisaient cuire leurs aliments, des fois des graines tombaient dans le feu, brûlées, et on retrouve sous forme carbonisée les graines, mais elles ont conservé leur forme. Donc ça remonte à quand même assez loin, l'histoire des semences, et certaines plantes que nous connaissons à l'heure actuelle n'existent plus à l'état sauvage. Donc certaines de ces plantes, les espèces, de ces plantes sont des, à l'heure actuelle, des plantes uniquement domestiquées. Donc si elles disparaissent, eh bien des espèces disparaissent. Et je pense que on parle de disparition de nombreuses espèces dans les forêts équatoriales, mais au niveau potager, au niveau alimentaire, certaines espèces sont également tout aussi menacées que celles qui sont sauvages. Donc il ne faut pas parler que des espèces sauvages. Alors qu'est-ce qu'on a fait au néolithique? Eh bien les gens ont observé qu'il y avait des légumes, des céréales qui pouvaient être intéressantes pour se nourrir. Et puis, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais par l'observation, ils se sont aperçus que ces graines, si elles tombaient au sol, eh bien, elles germaient. Et petit à petit est née l'agriculture et la sédentarisation. Donc de nomades, chasseurs-cueilleurs, dans la préhistoire, les gens sont devenus sédentaires et paysans. C'est de là aussi qu'est né le commerce. Alors, les expressions, est-ce que tu as du blé, des épinards, de l'oseille, mettre du beurre dans les épinards, etc. Tout ça, ça fait référence au commerce. Donc, le commerce est né d'abord par l'échange des graines et de la nourriture. Voilà. Donc, à une certaine époque, pour les gens, naturellement, une graine, c'était aussi quelque chose qui se mangeait. Et ce qu'on mangeait, on pouvait également le semer. Il n'y avait pas de dissociation. Vous repérez qu'à notre époque, là je fais un saut de plusieurs milliers d'années, dans la tête des gens, il y a les haricots qu'on mange, il y a les haricots qu'on sème. En réalité, c'est exactement la même chose. Vous achetez des haricots à manger, secs, vous les semez, vous retrouvez exactement la variété. Donc on est arrivé à un tel stade de détachement par rapport à la nature, qu'on a perdu tout bon sens et qu'on n'est même pas capable de se rendre compte que la plupart du temps, au lieu d'acheter, par exemple, des pommes de terre tous les ans pour semer ces pommes de terre, eh bien, on peut récupérer pendant un certain nombre d'années les petites pommes de terre qu'on a au jardin. Voilà. Donc, par rapport au néolithique, on a avancé loin. Alors, après le néolithique, qu'est-ce qu'on a fait petit à petit? Les gens se sont sédentarisés. Ils ont donc occupé des fonds de vallée, des terroirs, ce qu'on appelle des terroirs, c'est-à-dire un ensemble terre, climat, agencement de la nature, c'est-à-dire les hommes n'ont pas laissé la nature telle qu'elle. Par exemple, on voit se former dans certains paysages des terrasses, et ces terrasses ont influé sur le climat et sur la qualité de la terre et sur tout un tas de choses. Donc les hommes ont en partie façonné donc leur terroir, et dans chaque terroir, dans chaque village, dans chaque hameau, des sélections de plantes ont été effectuées. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a à peine un peu plus de 100 ans, chaque vallée, chaque village, chaque hameau, pratiquement chaque jardin pouvait se prétendre d'avoir une variété de tel et tel légume. Puisque les personnes, à l'époque, ressemaient leurs légumes, leurs fruits, de toute façon, ils vivaient quasiment en autarcie, il y avait assez peu d'échanges, donc il y avait des variétés locales. Alors parmi ces variétés locales, il y avait énormément de variétés qui étaient franchement minables, mais ils n'avaient rien d'autre sous la main. Alors, à l'occasion de colportage, des variétés plus performantes se sont répandues un peu partout. Et bien sûr, les plus performantes ont évincé les moins performantes. Alors, certaines ont disparu, mais franchement, il n'y a pas trop à les regretter. Alors, pourquoi on ne va pas regretter leur disparition? Mais parce que à cette époque, il y avait suffisamment de diversité pour que les gènes, la richesse des couleurs, des formes, des résistances soit conservé, parce qu'il y avait partout encore beaucoup de choses différentes. Alors à une époque qui est relativement récente, c'est-à-dire au XXe siècle, on a commencé à essayer de rationaliser la production des semences dans le but de nourrir mieux les personnes, c'est-à-dire d'améliorer les rendements en agriculture. Produire plus de matière sur une surface plus petite avec moins de travail. Alors donc, à cette époque, au courant XXe siècle, on commençait à comprendre les lois de la génétique. Donc ça a commencé fin 19e, la découverte des lois de la génétique, c'est-à-dire deux parents aux yeux bleus vont faire des enfants aux yeux bleus. C'est très simple, c'est simplifié, mais en gros c'est ça. Pareil pour les groupes sanguins, on a commencé à comprendre ce qui se passait. Du coup, on a commencé à pouvoir utiliser des mathématiques, à utiliser des outils scientifiques pour augmenter la productivité et améliorer la performance des différentes variétés. Et donc, on est rentré dans l'ère de l'épuration. Alors, l'épuration, c'est un mot qui est très, très connoté, mais il est utilisé dans le milieu pour dire que de multitudes de variétés avec des performances très très inégales, qui parfois étaient très adaptées à un terroir, mais avec des rendements assez faibles. On a essayé de limiter le nombre de variétés, mais d'essayer d'augmenter les performances des variétés. Et l'épuration, ben, c'est bien ce que ça veut dire. On a sacrifié des tas et des tas de variétés. Donc, on a limité le nombre de variétés en essayant de favoriser un certain nombre qui avaient de meilleures performances. Alors, on pourrait dire qu'à cette époque, pour ma part, je pense qu'à cette époque, on a réalisé des progrès. Donc, puisqu'on a réalisé une sélection artificielle, mais en essayant de mieux valoriser le travail des paysans. Et à cette époque, on ne faisait que sélectionner les plus beaux sujets. Il n'y avait rien d'artificiel, on ne faisait que finalement favoriser ce que la nature nous offrait. Donc par exemple, quand vous semez un pépin de pomme, il y a une chance ou deux sur 100 d'avoir une nouvelle variété intéressante. Une cinquantaine de pommiers vous donneront des petites pommes immangeables. Les 48 autres, bon, seront plus ou moins grosses, mais si elles sont grosses, elles ne seront pas bonnes. Si elles sont petites et bonnes, bon, elles sont trop petites, etc. Donc il faut la nature potentiellement peut nous donner des belles choses, mais il faut trier. Donc l'épuration, rationalisée, ça a permis d'avoir quand même pas mal de choses intéressantes. Et donc, disons, on peut dire fin du 19e, 20e, c'est une époque où on a créé énormément de nouvelles variétés. Donc ce qu'on appelle à l'heure actuelle des anciennes variétés, à l'époque, c'était des choses toutes neuves. Mais il y avait une richesse absolument phénoménale. Il y avait des centaines de variétés de tout un tas de légumes. Et en ayant amélioré les performances de ces plantes, on a quand même conservé une diversité. Donc, arrivé à la guerre de 39-45, grâce, on pourrait dire, certains historiens pourraient dire, grâce à la stimulation des hormones belliqueuses, on a réussi à inventer des tas de choses. Donc, autrefois, grâce à la poudre à canon, on avait inventé le précurseur des engrais. Et puis, pendant la guerre de 39-45, on a perfectionné les produits chimiques qui étaient destinés à tuer les hommes. Et puis, ben, quand la guerre s'est terminée, les firmes qui fabriquaient des produits pour tuer les hommes, elles n'avaient plus de boulot. Donc, elles se sont reconverties en fabriquant de pesticides. Donc, certes, l'ennemi est une peste, mais bon, il fallait le renommer. Donc, on l'a appelé insecticide, fongicide pour les champignons, herbicide, etc. Donc ces firmes, par hasard étrange, ont commencé à racheter des firmes semencières. Et puis les choses ont évolué, et pour arriver à aujourd'hui à une situation où les plus grosses firmes, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, sont à la fois fabricantes de produits chimiques et productrices de semences. Et puis on le verra plus tard, ben, elles fabriquent aussi, comme par hasard, des OGM qui résistent à leur propre peste, à leur propre pesticide. Voilà. Donc, l'évolution, donc on avait une diversité, mais avec beaucoup de... Il y avait du bon grain, mais beaucoup d'ivré. On a fait de l'épuration. En même temps, on a créé des nouvelles variétés. Il y avait une belle diversité. La production a augmenté. Mais on a voulu aller plus loin. Donc, après la guerre 39-45, eh bien, on a installé, donc sous le régime de Vichy, se sont installées des réglementations, donc j'en parlerai tout à l'heure, et qui se sont accompagnées d'une épuration un peu plus grande encore. C'est-à-dire qu'on a éliminé des variétés qui pouvaient être intéressantes, mais qui étaient un peu trop locales, un peu trop particulières. Donc ça représentait des volumes un peu trop faibles. Et c'est une époque, après 39-45, où on subissait énormément l'influence donc, des États-Unis, qui soutenaient l'Europe avec le plan Marshall et tous les fonds. Et les États-Unis disaient, bon, on veut bien vous aider, mais il faut que vous commenciez à travailler sérieusement et à commencer à nous donner des rendements. D'abord, il faudrait commencer à être autosuffisant alimentairement. Donc, c'est à ce moment-là qu'a commencé ce qu'on appelle la révolution verte. Et donc, où d'abord on a commencé en Europe, puis ensuite on a exporté le modèle dans les pays du tiers-monde. Le but était de faire produire beaucoup plus aux agriculteurs. Donc l'idée, c'était de faire comme à l'usine, de rationaliser les choses, d'utiliser au maximum les machines. Et donc ça a été une accélération phénoménale de l'exode rural, et puis les gens sont allés en ville, tandis que les agriculteurs devenaient de moins en moins nombreux. Donc à l'heure actuelle, il y avait 80-90% d'agriculteurs au 19e. Il me semble que c'est dans ces eaux-là. Et maintenant, un agriculteur nourrit de 80 à 100 personnes. Donc les choses se sont complètement retournées. Les gens donc sont allés s'accumuler dans les villes. Voilà. Donc voilà pour l'historique. Dans les progrès qui ont eu lieu, donc on a commencé à avoir de moins en moins de variétés. C'était intéressant. De toute façon, on avait moins de clients, mais des clients plus gros. Donc les clients plus gros, eux, ils n'avaient pas envie d'acheter 40 variétés. Ils voulaient la variété qui fonctionne. Et donc, au niveau des grandes cultures, on a vu le nombre de variétés diminuer. Et à l'heure actuelle, j'ai des chiffres, mais je crois que 5 variétés représentent 20% de ce qui se met en France. 5 variétés de blé. Dans les blés, ces 5 variétés font le cinquième de tout ce qui est semé, ce qui est colossal. Et si on regarde après la suite, c'est pareil. On a pas mal de variétés qui sont beaucoup semées. Puis après, il y a des choses relationnelles qui ont tendance à petit disparaître, et on verra par quel mécanisme. Et la cerise sur le gâteau, d'abord il y a eu une étape où on est passé aux hybrides, la production de semences hybrides. Alors jusqu'à présent, les semences, c'était des semences dites population, c'est-à-dire que quand vous aviez un sachet de graines, chaque graine était un être indépendant, individuel. Donc, le type de la variété, quand vous semiez chaque graine, vous aviez à peu près le type de la bonne. Étant système haricot blanc, mais toutes les graines donnaient des haricots blancs. Mais il pouvait y avoir de très légères variations, variations qu'on retrouve, par exemple, dans ce qu'on appelle des races animales. Alors, il y a des races où tous les lapins sont blancs, d'autres races où tous les lapins sont grands. Bon, chez les plantes, on avait le même genre de choses dans chaque variété, mais on avait une population, c'est-à-dire qu'au niveau génétique, il y avait quand même quelques petites différences entre les individus. Donc la tendance a été à essayer de purifier ça au maximum, à éliminer tous les caractères secondaires pour avoir des choses très homogènes. Et une invention, on peut appeler ça comme ça, a été mise à profit. C'est, on s'est aperçu que lorsque les variétés devenaient très très consanguines, très conformes, bon, elles avaient tendance à un petit peu s'affaiblir parce que elles accumulaient aussi des tares. Les bons gènes étaient renforcés parce qu'ils étaient en double exemplaire, mais les tares également. Donc on avait des variétés pures qui étaient un peu plus faibles que leurs ancêtres, qui étaient plus variables. Et on s'est aperçu que si on laissait se croiser naturellement ou artificiellement deux variétés pures, on obtenait un hybride. Et cet hybride avait ce qu'on appelle une vigueur hybride. Et le nom scientifique de la première génération lorsqu'on fait une hybridation, c'est F1. Voilà, c'est une variété F1. C'est une variété qui est obtenue en croisant deux plantes qui sont obtenues de deux lignées pures. Alors, en prenant l'exemple du maïs, où c'est le plus spectaculaire, vous avez deux variétés pures. Un maïs qui résiste à la sécheresse, mais avec un faible rendement. Et un maïs qui résiste pas à la sécheresse, mais qui a de bons rendements. Donc un maïs qu'il faut beaucoup arroser. Si vous croisez les deux, donc il y en a un qui est comme ça, qui résiste à la sécheresse, l'autre qui est plus haut, si vous l'arrosez, qui produit mieux, mais il résiste pas à la sécheresse. Vous les croisez, vous obtenez un maïs qui fait 50 cm à 1 mètre de haut, qui produit encore plus que le parent qui est le plus producteur, mais qui en plus résiste mieux à la sécheresse. C'est-à-dire que la vigueur hybride va faire la somme des qualités des deux parents, mais va en plus les amplifier. Alors, sur le maïs, c'est ce qui est le plus évident. C'est ce qui est le plus évident, et c'est le plus spectaculaire, et c'est ce qui justifie le fait qu'à l'heure actuelle, plus de 99% du maïs cultivé dans le monde est du maïs F1. Alors, si vous avez bien compris, ça ne marche qu'à la première génération. Donc, le F1, c'est formidable, entre guillemets. Ça va donner donc de bien meilleurs rendements, ça va faire la somme des qualités des deux parents et les amplifier. Donc c'est un argument excellent pour dire aux agriculteurs, voilà quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, et bien entendu, il y a un petit défaut, c'est que tous les ans vous serez obligé de le racheter. Donc les paysans se retrouvent captifs, ne peuvent plus se faire leurs semences eux-mêmes. Voilà. Alors il n'y a pas que les paysans, il y a les maraîchers, ceux qui produisent nos légumes. Beaucoup des maraîchers qui essaient de vivre et survivre, ont parfois des salariés ou sont tout seuls, mais ils aiment bien vendre à des... Enfin, ils aiment bien, ils essaient de vendre comme ils peuvent. Alors les marchés, ça ne suffit pas forcément. Donc ils peuvent avoir des contrats avec la grande distribution. la grande distribution va leur demander une production abondante et homogène. Par exemple, si elle demande des choux-fleurs à un breton, eh bien, elle va demander deux semi-remorques de choux-fleurs, c'est-à-dire quelques dizaines de tonnes, mais ces choux-fleurs devront être à peu près de la même taille et mûrir tous en même temps. Alors, avec une variété population, c'est-à-dire une variété où il y a une disparité génétique, eh bien, la production peut s'étaler sur plusieurs semaines. C'est une catastrophe pour le maraîcher qui a un contrat avec une grande surface. Par contre, si c'est un maraîcher qui vend à ses petits clients, eh bien, il va pouvoir vendre du chou-fleur pendant 3-4 semaines. Donc, les variétés population, c'est bien adapté au commerce local de proximité. Par contre, dans un monde où on a tout rationalisé, où la finance essaie de se gratter au passage, donc on va essayer de produire abondamment des choses très homogènes pour qu'elles puissent être vendues au même moment à plein d'endroits en même temps. Donc ça, c'est le principe de la grande distribution. Bon, bien sûr, au passage, on produit beaucoup, alors l'offre, la demande, le prix va énormément baisser. Donc le paysan se retrouve encore une fois dans un carcan où il va être obligé de produire en quantité pour arriver à dégager une petite marge, parce qu'il vend beaucoup, mais bien sûr avec une marge qui est ridicule. Bon, au passage, lorsque le maraîcher vendait son légume sur le marché, il multipliait par 2 ou 3, enfin il avait une marge qui fait que le produit, entre le prix de revient et le prix de vente au client, c'était multiplié par 3 ou 4. Donc ça, c'était vrai donc au niveau de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le cas, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'intermédiaires. Au bout du compte, on retrouvait toujours cette marge de 1 à 4. À l'heure actuelle, il n'y a plus qu'un seul intermédiaire, la centrale d'achat qui est l'intermédiaire entre le producteur et le client au supermarché. On pourrait se dire, ben, forcément, ils travaillent pour nous, comme dit M. Leclerc et compagnie. Donc forcément, ils doivent tirer les prix vers le bas et puis nous, on en profite. Si on regarde bien les choses, le facteur multiplicatif, il est passé de 4 avant à 7, voire 8. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un intermédiaire, mais où passe la marge ? Eh ben, dans les actions de ces grandes sociétés, dans les actions. C'est le dividende des actionnaires, et ce n'est pas dans votre portefeuille que vous allez récupérer le gain. Voilà. Donc les variétés F1, c'est formidable, on peut produire très très homogène. Donc lorsqu'on veut faire de la grosse production en un temps très court, c'est excellent. Voilà, donc c'est considéré comme un progrès pour les semenciers et pour certains agriculteurs qui adhèrent à ce système. Voilà, donc là aussi vous pouvez juger vous-même si ça semble être un progrès ou pas. Alors, on a été beaucoup plus loin. Donc avec les F1, on produit quelque chose d'hyper homogène, bien adapté à la grande distribution. Donc on a forcément un produit très standard. Et puis, on a fait encore mieux. On a fait encore mieux, c'est-à-dire qu'on a fait des plantes qui sont maintenant quasiment des clones, c'est-à-dire des plantes identiques les unes aux autres. Et ça, on peut le faire avec des cultures in vitro. Et puis, on a été encore plus loin, c'est-à-dire que pour améliorer, entre guillemets, ces plantes, eh bien, on leur a rajouté des gènes, c'est-à-dire des programmes génétiques qui existent dans d'autres organismes. Ça peut être même des choses très éloignées comme des bactéries, des animaux. Donc dans les fraises, on peut mettre un gène qui vient d'un poisson, d'une grenouille, d'un être humain, voilà. Et on fabrique ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés. Alors, on aurait pu faire des choses, au début, on nous a dit, on va faire des choses merveilleuses, on va faire la banane vaccin. On va faire une banane qui, grâce à des antigènes codés par des gènes, de produits qui donnent des allergies, enfin non, pardon, des. Grâce à des antigènes qui proviennent de maladies, donc de bactéries, de champignons qui provoquent des maladies, on va pouvoir se vacciner en mangeant la banane. Franchement, si c'était sorti, j'aurais peut-être adhéré à ce genre de choses parce que la banane, ça se bouture et dans n'importe quel potager du tiers-monde, on aurait pu fabriquer des vaccins qui n'aurait pas d'aluminium, qui n'aurait pas de besoin de seringues importées des États-Unis, etc. Donc ça aurait rendu un service. Mais toutes ces bonnes promesses, pour l'instant, le résultat, c'est qu'on a à l'heure actuelle deux types d'OGM qui couvrent 99% de tout ce qui existe. Ce sont des OGM qui résistent à un pesticide, enfin un herbicide qui s'appelle le Roundup ou un truc approchant. Et ensuite, vous avez des plantes qui fabriquent elles-mêmes leurs pesticides pour tuer, qui sont censées tuer leurs prédateurs. Et la nouvelle tendance, c'est de cumuler donc ces gènes et donc de créer des plantes qui rassemblent ces deux caractères. C'est-à-dire des plantes qui vont fabriquer un pesticide contre des chenilles, par exemple, et puis résister au Roundup. Voilà, donc on pourra les arroser avec du Roundup. Tout le reste est censé crever. On n'a pas besoin, on est censé ne pas avoir besoin d'autres herbicides. Et la plante, bon, il y a un petit souci, c'est que la plante va accumuler un petit peu de pesticides. Puisqu'elle y résiste, elle va s'engorger. Après, le pesticide est-il nocif pour la santé des animaux? On s'en fout. Voilà. On s'en fout parce qu'on fait de l'argent. Bon, voilà, donc ça c'est le problème des OGM. Alors les OGM, je pense que d'ici quelques mois, un an, je sais pas quand, on le programme au niveau des jeudis, mais... Donc c'est en soi, les OGM sont en soi... un problème assez important pour qu'on y consacre une soirée. Il faudra peut-être trouver un intervenant, ou alors ce sera peut-être moi. Bon, je ne sais pas. Donc les OGM, voilà, c'est le summum du progrès donc dans les semences. Donc pour les OGM, il y a une chose qui est formidable, pour les semenciers bien sûr, c'est que, au moins aux États-Unis, on peut breveter un gène. C'est-à-dire que si vous avez pêché un gène de grenouille, si vous l'avez découvert, vous pouvez aux États-Unis porter un brevet et il s'agit d'une invention. La loi dit que c'est une invention. On peut l'introduire donc dans une plante. Alors cette plante ne peut pas être brevetée, mais comme elle contient un gène qui est lui-même breveté, ça revient finalement à pouvoir breveter le gène. Alors si malencontreusement cette plante va polliniser une plante qui est dans votre jardin et que donc vos plantes sont contaminées par le transgène, vos plantes sont contaminées par quelque chose qui est soumis à un brevet, et vous pouvez être attaqué pour contrefaçon. Donc, on vous a contaminé votre jardin, on a pollué votre jardin, mais la loi, si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, la loi peut vous condamner pour contrefaçon, c'est-à-dire vous avez volé le brevet, par exemple, de Monsanto. Voilà. Donc, c'est encore un progrès, c'est un progrès fabuleux, les OGM, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est l'ultime étape donc de la saga des semences. Le petit problème, c'est que la belle biodiversité qu'on avait 100 ans plus tôt, elle s'est réduite à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a plus que quelques variétés qui se comptent sur les doigts d'une main, ces variétés, on va quand même arriver à créer des petites différences. Et chaque fois qu'on crée une petite différence, on va donner à la variété un nom. Et puis on va déposer un nouveau brevet. Donc les semenciers nous disent, mais regardez, à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant de semences. Mais si on regarde la liste de tout ce qu'ils proposent, la plupart sont des semences F1, donc personne ne peut les ressemer, enfin on n'a pas intérêt à le faire. Et puis de plus en plus vont être OGM. Si les lois autorisent à semer des OGM, eh bien demain. Mais c'est vraiment demain, c'est-à-dire si la loi passe, c'est le mois prochain, vous allez avoir partout des semences OGM parce que les stocks sont déjà prêts. Voilà. Donc voilà, vous allez rentrer dans le monde du futur et bienvenue dans le progrès. Voilà. C'est ce qui nous réserve si les choses vont dans le sens où ils veulent que ça aille. Voilà. Voilà un peu pour l'histoire. Donc les F1, bien sûr, si on ressème ces F1, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va avoir des... Si vous avez suivi, c'est l'interrogation. Si on sème CF1, on aura des F2. Si on ressème les F2, on aura des F3. Mais les F2, qu'est-ce que c'est? Les caractères génétiques vont se redistribuer dans les descendants. Donc vous aurez par exemple pour le maïs des petits maïs productifs résistants à la sécheresse, des grands maïs qui ne produisent rien du tout et qui ne résistent pas à la sécheresse. Voilà, vous aurez comment?
Des noix de Mendel.
Voilà, et vous allez mélanger les caractères. Donc vous allez avoir des...
Non, on ne mélange rien, ça revient...
Ça se redistribue, voilà. Et puis le phénomène de vigueur hybride, il va diminuer.
Un quart.
Voilà. Voilà. Alors le phénomène de vigueur hybride, en fait, c'est une supercherie, parce que les parents qui avaient une vigueur qui avait diminué, leur vigueur avait diminué par consanguinité. Donc forcément, quand on va couper cette consanguinité, les caractères... Donc toutes les tares d'une plante vont être compensées par le gène sain qui vient de l'autre plante, et forcément par sommation et amplification et synergie, vous allez avoir au résultat quelque chose de meilleur. Alors, si on compare CF1 à certaines variétés dites populations qui existent encore, heureusement, on peut obtenir des rendements sensiblement égaux en maintenant au niveau génétique une grande richesse dans les variétés populations. Alors au Mexique, par exemple, c'est le foyer historique, c'est de là que viennent les variétés de maïs. Là-bas, il y a des variétés de maïs qui poussent naturellement avec très peu d'eau, qui ont des racines qui s'enfoncent naturellement dans le sol, qui ont besoin de peu d'intrants, c'est-à-dire pas du tout besoin d'engrais chimiques. Et au niveau des rendements, dans les mêmes conditions, les variétés F1 seraient même moins bonnes. Moins bonnes parce que finalement, elles sont un peu figées, elles ont du mal à s'adapter, elles sont bien faites pour des conditions assez standards de culture, mais après, si on les met dans des terroirs particuliers, dans des climats particuliers, ben là, elles ne sont franchement pas terribles. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même que les pesticides et les engrais chimiques, sans pétrole, il n'y en aurait pas. Donc, le jour où le pétrole va manquer, il faudra forcément passer à un autre type d'agriculture. Bon, si jamais on laisse faire les choses dans ce sens, de toute façon, on sera tous morts bien avant, parce que si on utilise tout le pétrole, l'effet de serre sera tel qu'on sera tous grillés, quoi. J'exagère peut-être, mais les effets seront... on n'arrête pas d'accumuler les tempêtes, les inondations, les machins, c'est pas très naturel tout ça. Bon, voilà, alors ceci étant dit, j'ai fait l'histoire et un peu ce qu'étaient les semences, donc maintenant on va rentrer dans la réglementation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans ce contexte. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment du régime de Vichy? Eh bien avant ce cher maréchal Pétain, mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait au moins à peu près 1 000 000 de petites entreprises semencières en France. Je ne parle que de la France. 1 000 000 d'entreprises semencières, donc par exemple il y avait Villemorin, bien connu, et après il y en avait tout un tas d'autres qui étaient connus de manière assez locale, ou des fois c'était simplement des familles qui produisaient des semences et les vendaient. Alors l'imprimerie a fait que distribuer des catalogues, et puis grâce à la poste, le service public, on a pu envoyer des graines par correspondance. Il y a des entreprises qui sont devenues un peu plus importantes parce qu'elles pouvaient distribuer leurs semences un peu partout. Et pour augmenter la beauté de leur catalogue, elles se sont mises à un petit peu frauder, c'est-à-dire qu'une même variété leur ont donné 3-4 noms différents. Donc le catalogue était un peu plus fourni. Donc on avait des gravures en noir et blanc, donc c'était facile de truander les gens. On racontait donc que telle variété, elle est productive et très belle, telle variété, elle fait une grosse pomme bien verte, telle variété résiste bien au froid. En réalité, c'était 3 fois la même variété. Pour faire un petit peu le ménage dans ce n'importe quoi qui était lié au fait que les gens voulaient faire du profit, au temps de Vichy, donc on a fait une loi qui a dit que les variétés, on devait vérifier un certain nombre de caractères sur ces variétés. Donc elles devaient être distinctes entre elles, c'est-à-dire qu'avoir 10 fois la même salade sous des noms différents, ça ne pouvait plus exister. Donc il fallait qu'elles soient distinctes, homogènes, c'est-à-dire que quand vous parlez d'une variété de salade verte, toutes les salades de cette variété doivent être vertes. Il ne doit pas y avoir une tache rouge de temps en temps, ou bien les pommes un peu plus allongées ou un peu plus plates, il faut qu'elles aient toutes à peu près, qu'elles soient homogènes, donc distinctes les unes des autres, qu'elles soient homogènes, et puis qu'elle soit stable, c'est-à-dire quand vous ressemez votre variété, à chaque génération, vous devez avoir la même chose que ce que vous avez eu à la génération précédente. Donc là, on est en plein dans l'histoire des... On est encore dans les variétés population, mais dans des variétés qui sont assez consanguines. Voilà. Et alors, est-ce que tout ce qu'on a inventé par la suite est compatible avec distinct, homogène et stable? Ben oui, la variété F1, elle est distincte des autres. C'est assez facile, elle a des caractères très stéréotypés. Comme les variétés sont très très stéréotypées, c'est-à-dire on a une variété avec des gros choux-fleurs et tous les choux-fleurs sont très gros, l'autre variété va avoir des choux un peu plus petits, et au niveau des dates de production ça va être relativement différent. Donc à partir de variétés qui étaient très proches à la base, on peut créer très facilement 2 variétés F1 qui sont distinctes, homogènes. Ça on l'a vu tout à l'heure, les variétés F1 sont extrêmement homogènes, puisque le chou-fleur en question, il va avoir à peu près des pommes tout le temps de la même taille et qui vont mûrir toutes en même temps. Voilà. Et est-ce qu'elles sont stables? Alors là, il y a un petit souci. Mais c'est facilement contourné en disant, de toute façon, les F1, Techniquement, il faut les refaire chaque année. Donc on va les refaire chaque année avec des parents qui, eux, sont stables. Donc le F1, on garantit que lui-même ressemblera toujours au F1 d'origine, puisque les variétés parentes, on va, elles, les conserver et les continuer à les produire. Mais alors ces variétés parentes, quand on vous vend du F1, on ne vous dit jamais comment elles s'appellent. Sinon, vous pourriez être tenté éventuellement de vous les faire vous-même. Donc, bon, là, on a le droit de garder le secret. Hein, voilà. Donc, où c'est que j'en étais, là? Donc, on est dans la législation. On a commencé à essayer de réglementer et de faire le ménage dans ce gros bazar. Au passage, le capitalisme est rentré dans les consciences de beaucoup de personnes qui se sont mis à un peu grossir, prendre des employés et surtout à racheter leurs concurrents pour augmenter leur clientèle. Donc on rachète le concurrent, on rachète le fond, mais on rachète aussi les clients. Les catalogues ont fusionné et puis petit à petit on est arrivé à une situation. À l'heure actuelle, il y a à peu près autant de semenciers en France que de doigts sur ma main. Sauf que si on regarde bien, les principaux en volume, c'est deux ou trois firmes multinationales qui détiennent pratiquement toutes les marques existantes. Après, vous avez quelques exceptions. Vous avez les graines Beaumont, une famille peu sympathique, mais enfin qui a quand même le mérite d'être encore indépendante. Vous avez donc quelques exemples. Alors Vilmorin, qui est historiquement un grainetier qui est connu depuis très longtemps, ça fait 200-300 ans que de père en fils, ils sont jardiniers, font des graines. Vilmorin, c'est fini. Vilmorin, ce n'est qu'une marque, et c'est une sous-marque de Limagrain, qui a racheté également Close et Thésier. Donc, quand vous allez à la RAGT et que vous cherchez des semences, vous avez un rayon de graines, vous avez de la variété. Vous avez Close, Thésier et Vilmorin côte à côte, c'est-à-dire trois marques, mais qui représentent exactement le même semencier. Voilà, donc dans certains magasins, vous avez l'impression d'avoir le choix entre différentes marques, mais en fait, c'est le même groupe semencier qui possède toutes les semences. Alors, quand ils arrivent à ce degré de concentration et de pouvoir, et de puissance économique, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à avoir de l'influence sur les politiques et les décideurs. Donc les lois qui ont été faites sous Vichy et Pétain, c'est pas suffisant, il faut aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est cette loi qui a été fabriquée sous Vichy? Eh bien, c'est que une variété doit être distincte, homogène et stable. Et pour qu'elle existe, donc il faut pour qu'on ait le droit de la commercialiser en tant que semence et puis de produire donc les fruits et légumes qui en découlent, il faut qu'elle soit inscrite sur une liste officielle. Donc on a créé une liste officielle, c'est-à-dire une liste des plantes dont on a le droit de vendre les semences et de produire donc les fruits et légumes. Et cette liste pourra avoir le droit d'y rentrer. Eh bien, il faut payer la somme, je crois que c'est, je vais retrouver ça, c'est 6 000 euros pour inscrire une variété. Et ensuite, on a créé simultanément avec cette liste, on a créé un organisme de contrôle qui doit contrôler que la variété est distincte, homogène et stable. Donc, cet organisme s'appelle le GNIS, le GNIS. Donc, c'est le Groupement National Interprofessionnel des Semences. Interprofessionnel, on a vu qu'il n'y avait plus que quelques semenciers, donc c'est un club très très fermé, quoi. Donc le GNIS, c'est comme la DGCCRF, c'est-à-dire l'organisme qui contrôle les fraudes. C'est un organisme qui est parapublic, qui donc dépend de l'État. Mais quand on regarde un peu plus, quand on gratte un petit peu, on voit que les principaux bailleurs de fonds du GNIS, ce sont des groupes semenciers énormes. Donc, l'État a son mot à dire, mais finalement, c'est plutôt les gens qui vont payer les droits d'inscription qui vont pouvoir influencer les gens, les fonctionnaires qui travaillent normalement pour le bien de tous, vont petit à petit, même peut-être inconsciemment, travailler finalement pour les intérêts des grands semenciers, parce que c'est eux finalement qui leur paient le salaire, plus ou moins. Donc c'est 6 000 euros pour inscrire chaque variété, et puis après c'est 2 000 euros pour que le GNIS donc, puisse contrôler régulièrement que les semences sont distinctes, homogènes et stables. Alors, 6 000 euros plus 2 000 euros pour chaque variété, des petites firmes semencières ne peuvent pas payer ces prix-là. Alors, si on voit à l'heure actuelle, si on regarde un peu qu'est-ce qui reste comme petites firmes semencières, eh bien, on trouve pratiquement que des groupements d'agriculteurs en bio qui se sont regroupés et qui essayent de produire leurs graines en bio parce qu'il y avait un besoin par rapport au cahier des charges. Et si on regarde ce qu'ils proposent, eh bien, il n'y a aucune variété à fin chez eux, ou pratiquement aucune. Et puis, ils essaient de proposer des variétés qui leur coûtent pas trop cher. Voilà. Donc, sur cette liste officielle, il existe deux catégories de semences. Donc, il y a les semences qui viennent d'être, entre guillemets, inventées. Donc, par exemple, toutes les F1 qui sortent, eh bien, sont forcément inventées. En plus, ils ne disent pas quels sont les parents à l'origine de ces F1, donc ils protègent assez bien leur production. Alors, c'est chaque semence nouvelle est l'objet d'un certificat d'obtention végétale. Alors, un certificat d'obtention végétale, ce n'est pas un brevet, mais c'est tout comme. C'est-à-dire, pendant une durée de, c'est 25 ans pour les plantes annuelles et 30 ans pour les plantes pérennes. Donc, plantes pérennes, ben, c'est... que ça peut être, ben c'est toutes les variétés de framboises, de fraisiers, de tous ces trucs-là. Donc ça va durer 30 ans. Hein. Donc pendant 30 ans, l'inventeur va toucher des royalties si quelqu'un veut produire ses semences ou il va ramasser, donc même s'il ne produit plus ses semences, mais si c'est d'autres qui le font, il va ramasser donc un dividende sur son invention. Et ça va durer donc très longtemps. Voilà. Alors, au bout de ces 25 ou 30 ans, suivant le type de plante, la plante va tomber dans le domaine public. Alors, les petits semenciers bio dont j'ai parlé, eux, ils ont récupéré dans le domaine public des semences qui donc étaient dans le certificat d'obtention végétale... Certificat d'obtention végétale était tombé à terme. Il y a 20-30 ans, il y avait très peu de F1. Donc chez ce semencier, c'est pour ça qu'il n'y a pas de F1. Mais on peut imaginer que dans 20-30 ans, eh bien, comme les semences qui tomberont dans le domaine public seront des F1, les petits semenciers, eh bien, ils ne pourront pas les refaire. Si les gros semenciers ne leur donnent pas le nom des parents, ou ne leur donnent pas même les semences, eh bien, ils ne pourront pas les produire. Donc ce sera leur mort programmée. À moins que eux puissent payer pour maintenir les anciennes variétés. Alors eux, ils vont, s'ils veulent être les mainteneurs d'une ancienne variété, ils ne vont pas payer les 6000 euros d'inscription, bien sûr, mais par contre, les 2000 euros tous les 10 ans, il va falloir qu'ils les payent. Alors, à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est grâce à ces petites firmes, comme Le Biogerme, comme Germinance, comme... vous pouvez citer d'autres noms ? Non. C'est pas des... ils travaillent avec des amateurs et ils travaillent avec des producteurs de semences où ils rachètent des lots de semences et ils les revendent. C'est un revendeur, Cocopelli. C'est une association qui revend des semences produites soit par des adhérents, soit par des... Mais eux, ils sont carrément hors la loi. Donc, dans mon système, eux, ils sont hors course déjà. Donc, si on reste dans le domaine légal, je parlerai de Cocopelli un peu plus tard. Si on reste dans le domaine légal, donc les petits semenciers, eux, ils peuvent maintenir des variétés que les grands semenciers ont abandonné depuis belle lurette parce que ça ne rapporte pas assez. Et donc, ils font un travail utile parce qu'eux, ils préservent une certaine biodiversité, quelques variétés anciennes. Mais pareil, eux, il faut qu'ils vivent. Donc, ils ne peuvent pas proposer une diversité énorme parce que ça leur coûte un peu cher. Et il faut qu'ils arrivent à vendre suffisamment de semences pour payer les droits de maintenance. Donc il y a un équilibre qui s'établit et c'est pour ça que les catalogues des petits semenciers ne peuvent pas amplifier exponentiellement. Parce qu'il y a un moment où il n'y a pas assez de clients pour pouvoir payer la maintenance. Voilà. Alors qu'est-ce qui arrive à une variété dont personne ne veut payer les droits ? Eh bien cette variété devient interdite. Elle sort de cette liste officielle, donc par décret. Donc par exemple pour l'année prochaine, s'il y en a qui connaissent la courge musquée de Provence, la courge de base, je ne parle pas des F1 et compagnie, eh bien, par décret officiel, elle a été sortie de la liste. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un maraîcher qui va produire de la courge musquée de Provence sur le marché, s'il se fait attraper par la DGCCRF, il va attraper une amende. Puisqu'il a cultivé... s'il a acheté la semence de musquée de Provence à un organisme, il n'avait pas le droit de le faire, elle était sortie de cette liste. S'il a acheté cette variété, lui, étant donné que cette variété n'est plus sur la liste officielle, donc pour les professionnels, il n'a plus le droit de la produire, enfin de l'acheter pour produire ensuite le légume et le vendre. Donc finalement, c'est un système qui au départ finalement était, on peut dire louable parce qu'il y avait de la fraude, donc les gens vendaient tout et n'importe quoi. Au bout de compte, on est arrivé à un système où mathématiquement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça va éliminer tout un tas de variétés. Alors, il y a eu un sursaut, bien sûr, de tout un tas de personnes qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? On est en train de détruire la biodiversité au potager. Il nous faut une autre liste. Il nous faut une liste. Il nous faut une liste des variétés qu'on voudrait continuer à cultiver. Par exemple, la muscade de Provence, eh bien, elle ne va pas disparaître encore. Elle va passer sur la variété des semences autorisées pour les jardiniers amateurs. Donc, par exemple, si je prends le cas du biogerme, vous avez deux types de variétés chez le biogerme. Vous avez les variétés inscrites sur la liste officielle, donc les maraîchers peuvent les acheter, ces semences, et produire les fruits, les vendre sur les marchés. Il y a une deuxième variété, on regarde bien à côté de chaque variété, il y a écrit « réservé aux amateurs ». Ces variétés sont par la loi vendues en toute petite quantité, donc c'est limité à quelques grammes, ce qui veut dire que si un maraîcher voulait les cultiver, ben il n'en aurait pas assez pour en produire, pour les vendre, si c'est un gros maraîcher. Donc déjà, on a bien réfléchi à la chose, on se dit, on va vendre des petites quantités, comme ça on est sûr qu'ils ne pourront pas trop contourner la loi. À moins qu'ils fassent eux-mêmes leurs semences, mais ça on en reparlera. Donc il y a une deuxième liste qui est arrivée, on dit, ouf, ça y est, on va pouvoir sauver la biodiversité. Sauf que l'inscription sur cette liste, ce n'est pas gratuite. Elle est payante. Donc c'est pareil, mathématiquement, si cette inscription sur la deuxième liste est payante, ça signifie que si on voulait sauver, enfin inscrire sur cette liste toutes les variétés existantes, eh bien, il n'y aurait pas assez d'argent chez ces petits semenciers pour financer tout ça. Donc fatalement, il y a des variétés qui vont tomber en dehors de ces deux listes. Donc il y a une liste pour les professionnels, on l'a compris, et une liste réservée aux amateurs, aux jardiniers, qui aurait pu être le réservoir de biodiversité, le conservatoire du passé, et au bout du compte, ben, ce n'est qu'une petite partie de ce qui existe. Alors très récemment, étant donné qu'au niveau de l'Europe, il y a eu des directives pour préserver la biodiversité, il a fallu qu'en France on transpose et puis qu'on crée un semblant d'équivalent de cette loi. Donc il vient de sortir une liste de variétés de conservation. C'est-à-dire, c'est une liste de variétés. Donc là, c'est, je pense que je ne sais pas si c'est gratuit, mais en fait, c'est une liste où sont inscrits tous les noms des variétés qui sont pas sur les deux autres. Donc c'est une liste où certaines communautés, certaines appellations contrôlées, par exemple, ont le droit d'avoir des variétés, de les commercialiser. Donc ça, on considère que c'est une œuvre de conservation. Et donc on tolère que ces variétés soient cultivées et vendues. Mais le problème, c'est que tout ce qui n'est pas inscrit sur cette liste est hors la loi. Alors si on fait la somme de ces trois listes, eh bien on n'a que quelques pourcents de ce qui existe. Donc les 90% qui ne sont pas sur ces trois listes sont illégales. On n'a pas le droit, donc si ce n'est pas sur la première liste, déjà les maraîchers n'ont pas le droit. Si ce n'est pas sur la deuxième, les amateurs n'ont pas le droit. Si ce n'est pas sur la troisième, il y a quelques cas particuliers qui, s'ils ont oublié de faire inscrire leur variété, ben ils n'ont plus le droit de vendre leur haricot de machin bidule ou leur courge de Saint-Brieuc, etc. Voilà. Et puis tout le reste, c'est devenu illégal. Parce qu'il se passe en France une chose rigolote, c'est qu'au niveau de la législation, on a une logique qui est complètement inversée par rapport aux anglo-saxons. Les anglo-saxons disent que... alors, si quelque chose n'est pas interdit, c'est forcément autorisé. C'est-à-dire que les anglo-saxons disent, s'il y a un vide juridique, on a le droit. S'il n'y a pas une loi qui vous dit de ne pas faire quelque chose, si cette loi n'existe pas, mais donc vous avez le droit, de fait. En France, c'est l'inverse. Une loi doit vous autoriser à faire quelque chose. Donc, on a créé une liste. Vous avez le droit de produire pour des maraîchers, il y a une liste pour amateurs, vous avez le droit dans votre potager d'acheter les semences. Mais s'il n'y a aucune liste, s'il n'y a pas une loi qui vous autorise à faire quelque chose, c'est que implicitement c'est interdit. Donc aux États-Unis, si la loi n'existe pas, vous avez le droit de le faire. En France, si une loi n'existe pas pour vous autoriser à faire quelque chose, eh bien ce qui n'est pas autorisé, c'est forcément interdit. sais pas si j'ai été claire. C'est exactement la logique inverse. Au bout du compte, comme au niveau de la biodiversité, on ne peut pas recenser très, très facilement tout ce qui existe, ben, tout ce qui n'est pas inscrit, c'est interdit. Voilà, donc c'est exactement le... Donc c'est antinomique, donc c'est contradictoire avec le but d'un conservatoire de la biodiversité, c'est de garder justement des choses qu'on ne peut pas connaître à l'avance. Donc la biodiversité au potager, qu'est-ce que c'est ? Ben, on pensait, ou au potager, ou plus généralement au niveau des animaux, on pensait par exemple que la vache landaise avait totalement disparu, et puis un jour, on a vu débarquer sur un marché un vieux papy avec une trentaine de vaches, c'était des vaches landaises. Il en restait plus que 30, lui les avait gardées jusqu'au bout, et puis il pensait prendre sa retraite, il venait les vendre. Donc, à ce moment-là, quelqu'un les a repérées, les a rachetées, et on a sauvé la variété. Pour les légumes, c'est pareil. Une de vos voisines, ou quelqu'un qui est un petit peu original dans le village, vous apprenez qu'il fait des graines, vous allez le voir, et puis vous vous rendez compte qu'il possède, il possède un trésor, parce qu'on pensait que cette variété avait disparu, ben lui, il la maintenait. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Or, en France, il faut qu'on ait tout prévu à l'avance pour avoir le droit de faire les choses. Donc, ça ne va pas, c'est contradictoire. Voilà. Alors, j'ai parlé de ce problème réglementaire. Donc, en France, en France et en Europe, puisque c'est européen, il y a une liste européenne. En dehors de ce qui est inscrit, vous n'avez pas le droit de vendre. Alors, bon, moi, personnellement, je ne suis pas opposé à ce qu'est cette loi. On n'a pas le droit de vendre des choses un peu approximatives, puisque le client, quand on lui vend quelque chose, il est en droit d'attendre une certaine qualité. Bon, pourquoi pas? Mais ensuite, pourquoi on n'aurait pas le droit d'échanger ou de donner? Et là, je suis plus du tout d'accord. Nous, dans notre association, quand on fait des bourses aux graines, bon, mais ce qu'on dit, c'est que les graines qu'on a produites, c'est gratuit. Alors, venez pas vous plaindre après si ça germe pas ou si c'est un peu n'importe quoi. Bon, mais c'est le risque. C'est le risque qu'on prend en essayant de propager un peu de biodiversité. Voilà. Faut pas être aussi... faut pas se comporter en client, je veux dire. Quand on veut essayer de rentrer dans cette sauvegarde, bon, mais il faut être très, très tolérant, quoi. Puis surtout, il y a que ceux qui y ont trempé dans la fabrication des semences qui se rendent compte à quel point ça peut être délicat et... Et puis c'est du boulot, quoi, donc il faut le respecter. Voilà, donc en France, il n'y a plus. Donc on n'a plus le droit de faire ça, donc on n'a plus le droit de donner des semences ou de les échanger. Alors il y a quelques exceptions. D'après le réseau Semences Paysannes, nous les jardiniers, les clubs privés, on est encore un peu protégés. Il y a des tolérances. Alors ces tolérances existent parce que pour l'instant, on ne représente rien du tout au niveau des finances. C'est-à-dire ce qu'on s'échange. Ça ne nous empêche pas d'acheter quand même des semences parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Et donc, pour l'instant, on n'a pas gravement menacé l'industrie semencière. Et puis l'industrie semencière, là où elle vit, c'est avec les paysans. Donc il n'y a pas d'agriculteurs ici, ou paysans ou maraîchers. Non. Quelqu'un qui pourrait témoigner. Si un agriculteur, à l'heure actuelle, resème ses propres semences, eh bien... Les organismes sont payés pour contrôler ce qui rentre et ce qui sort au niveau semences. Et s'ils s'aperçoivent qu'il n'a pas acheté suffisamment de semences par rapport à ce qu'il produit, eh bien, automatiquement, il va payer une taxe. Alors, cette taxe, donc il a produit lui-même ses semences. C'est-à-dire que le boulot de fabriquer ses semences, c'est lui qui se l'est tapé. Donc, il n'a rien demandé à personne. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors, c'est un truc qui a un nom très rigolo.
Cotisation volontaire obligatoire.
Là?
Cotisation volontaire obligatoire.
Voilà, c'est ça, la cotisation volontaire obligatoire.
C'est pas possible.
C'est fabuleux, hein? Donc vous êtes paysan, vous produisez, votre père produisait sa semence, vous continuez à faire comme lui. Vous ne demandez rien à personne. Et bien, comme vous n'achetez pas de semence, vous allez payer donc une cotisation volontaire obligatoire. Elle est volontaire et obligatoire, c'est fabuleux quand même. Ah, c'est joli. Alors c'est rigolo aussi parce que c'est COV, c'est-à-dire comme le certificat d'obtention végétale. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'humour, là, ceux qui travaillent au GNIS et compagnie, donc ils ont dû bien rire quand ils ont fabriqué ce genre de loi. Mais en tout cas, donc où va cet argent? Eh bien, il ne va pas à l'État, il retourne dans les caisses des semenciers, donc c'est quelques multinationales qui se gavent d'argent sur notre dos, et eh bien en plus ils vont aller racketter les petits agriculteurs qui auraient envie de continuer à faire leurs semences et puis qui contribuent énormément au maintien de la biodiversité, parce que c'est eux, c'est grâce à eux qu'on a conservé encore quelques centaines de variétés de céréales, de légumes et compagnie. Donc si ces gens n'avaient pas fait ce boulot, tout ça aurait disparu. Eh bien, pour les récompenser de ce travail, eh bien, en plus, on leur fait payer une taxe. Voilà. C'est fantastique. Donc, en conclusion, ben, voilà, vous êtes conscient maintenant de l'enjeu qui se joue donc au niveau du commerce et des semences en général. Donc il y a des mouvements qui essaient de lutter contre ces choses absurdes. Donc c'est le réseau Semences Paysannes, c'est le mouvement des semeurs volontaires. Il y a aussi une association qui s'appelle Cocopelli qui communique extrêmement bien là-dessus, donc qui explique un peu tous les enjeux, tous ces problèmes. C'est une association qui vend des semences. Alors si vous suivez mon discours, moi je pense que là où il y a un petit défaut dans cette association, dans son discours, c'est que si c'est une association et qu'elle œuvre pour le bien de tout le monde, l'idéal serait été qu'elle diffuse gratuitement les graines. Or le problème c'est qu'elle les vend. Elle les vend même assez cher. Et que si on vend assez cher, il faut le client est en droit, puisque là on vend, donc on a affaire à des clients. Le client est en droit de réclamer une certaine homogénéité et stabilité dans ses semences, et donc une certaine qualité. Là, on est dans un système marchand, donc le client, il a ses habitudes. Et donc la plupart du temps, Cocopelli a vendu des graines qui des fois n'étaient pas très stables, pas très homogènes, de qualité moyenne. Voilà. Donc ils ont un bon discours, mais après la façon dont ils mettent en œuvre leurs idées, c'est peut-être c'est un peu discutable. Et c'est tellement discutable qu'ils ils se sont fait terriblement taper sur les doigts, puisqu'ils ont été attaqués pour concurrence déloyale par des semenciers, donc BOMO, et par le GNIS, donc l'organisme d'État qui contrôle les semences, et puis ils ont eu une grosse amende. Voilà. Alors Cocopelli donc a payé donc une partie de la lutte. Donc pour le maintien de la biodiversité, les petites associations, pour l'instant, elles sont à l'abri. Apparemment, il y a encore une tolérance. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voyez passer des pétitions, si vous connaissez des agriculteurs, il faut essayer de soutenir tous les mouvements donc, qui permettent de lutter donc, contre l'avancement du projet de ces multinationales, c'est-à-dire d'avoir la mainmise totale sur le commerce des semences, et puis finalement sur la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est notre avenir. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de pétrole, donc on peut arroser les maïs, on peut les arroser de pesticides, les faire pousser à coups d'engrais, mais quand il n'y aura plus de pétrole, et quand le climat sera tellement fluctuant qu'il faudra des plantes capables, des populations de plantes capables de s'adapter rapidement, si on a trop diminué la biodiversité, on sera plus capable de produire de la nourriture pour tout le monde. Voilà, donc l'enjeu de la biodiversité au niveau des semences, c'est ça, c'est notre avenir. Et juste pour une histoire de gros sous, par une mécanique très mathématique, on est en train d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire on diminue énormément cette biodiversité pour enrichir quelques richissimes personnes. Quoi. Voilà. Donc... on va passer éventuellement aux questions. La conclusion, c'était ça. Quoi. J'ai du mal à. J'avais préparé, mais comme j'ai oublié.
Pour faire une variété F1, donc ça veut dire que ces semenciers, ils ont bien des variétés pures.
Oui,
d'accord. Donc eux, ils en détiennent.
Alors, Jeanville Morin se targue de posséder 1000 variétés différentes de haricots verts. Sauf que ces 1000 variétés sont dans ses congélateurs.
Oui.
Et que pour y accéder, il faut payer assez cher. Donc c'est pas à la portée de n'importe qui. Et puis s'ils n'ont pas envie de les faire sortir du congélateur, ils peuvent très bien refuser. C'est un bien privé. Donc ils se sont appropriés ces variétés. Alors si ces variétés existent dans des associations, chez des collectionneurs, c'est quand même fortement gênant pour ces semenciers. Donc par la loi, petit à petit, ils aimeraient bien que finalement... il n'y ait plus que quelques institutions publiques et privées qui aient le droit de conserver ces semences. Vous avez entendu parler au Spitzberg,
oui.
Il y a une banque la banque qui va sauver l'humanité. Donc on a mis sur des îles gelées dans le nord tout un tas de graines. Et puis maintenant qu'elles sont congelées, ben, tout va bien, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Lorsqu'il y aura un gros problème, on ira les chercher et puis on pourra s'en servir. Mon œil. Voilà. Donc.
Donc il prévoit des gros problèmes.
Non, surtout, ils prévoient qu'ils auront peut-être besoin de créer des F1 un petit peu différentes dans le futur et qu'ils auront besoin de géniteurs qui sont dans leur banque. Et puis qu'ils n'ont pas envie de payer des gens pour ressemer ces variétés tout régulièrement pour les maintenir. Le plus simple, c'est de les congeler, et puis quand on les congèle, elles vont rester vivantes pendant plusieurs dizaines d'années. Alors que si vous gardez vos graines vivantes, ben, pour certaines espèces, il faut les ressemer tous les ans, pour d'autres c'est tous les 3-4 ans, pour d'autres c'est tous les 10 ans, mais il faut régulièrement ressemer les graines pour sauver la variété.
Et au niveau mondial, il n'y a pas d'autres banques qui seraient un peu plus ouvertes, justement?
Si, il y a une banque à Saint-Pétersbourg maintenant, c'est ça? Donc en Russie, qui a collectionné des milliers de variétés de potagères qui existaient donc dans l'Empire. Et donc c'est pour ça qu'on a vu affluer ces dernières années des noirs de Russie, des noirs de Crimée, des géantes russes. Ils en ont des quantités phénoménales. Et donc à l'heure actuelle, par exemple sur les tomates, eh bien énormément de tomates viennent de Russie parce qu'elles sortent de cette banque-là. Eux, ils ont fait cet effort. Alors, cette banque est encore assez généreuse, assez ouverte, et on peut, par le biais d'associations, on peut arriver encore à faire sortir des variétés de là.
On a la même chose au Pérou pour la pomme de terre.
Alors, il y a la même chose au Pérou pour la pomme de terre. Pour le maïs, il y a un truc au Mexique aussi. En Inde pour le riz. En Irak, il y avait une fabuleuse banque de céréales résistantes à la sécheresse, traditionnelle. Et comme par hasard, il y a quelques bombes qui sont tombées dessus tout au début de la guerre. Et puis Monsanto a débarqué très peu de temps après. Et puis une loi a été imposée aux paysans. Ils n'avaient plus le droit de ressemer leurs semences. Et ils étaient obligés d'acheter tout à Monsanto. Comme par hasard. Voilà. Donc, c'est juste une anecdote. Voilà. Donc les banques, il y en a de moins en moins. Et elles sont de plus en plus fermées. Voilà. Même l'INRA, qui est un organisme de recherche public, et de plus en plus réticents pour céder les variétés qui sont présentes dans leur congélateur. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur ça. Donc, il faut compter que sur nous-mêmes. Donc, il faut essayer de se partager tout ce qui existe et d'essayer soi-même de maintenir ne serait-ce qu'une seule variété de légumes anciens, et puis de faire comme les petits originaux dans les vieux papis, les mamies qui sont dans certains villages, c'est essayer soi-même de maintenir certaines variétés. Alors ce soir, vous pourrez repartir avec un ou plusieurs sachets de variétés. Alors il n'y a pas que des variétés anciennes, mais tout ce qu'on met à votre disposition, ce sont des lignées relativement homogènes, ce sont des lignées population, et donc vous pouvez les semer autant de fois que vous voulez, jusqu'à vitam aeternam. Alors ces variétés s'adapteront au climat, c'est-à-dire que les moins adaptés vont faire des plantes qui sont chétives, et c'est pas celle-là que vous gardez pour les graines. Donc vos variétés vont évoluer en même temps que votre terroir. Donc si vous produisez vos graines, vous allez avoir quelque chose qui va avancer. Alors certaines, comme certaines variétés de tomates, ne font partie d'aucune des trois listes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout à l'heure je disais que vous étiez hors la loi. Pour l'instant j'ai dit il y a une tolérance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas payer un gendarme pour nous surveiller individuellement, donc voilà, soit impuissant pour être répressif à si petite échelle. Donc on peut résister chacun à notre échelle, chacun peut apporter notre petite goutte pour éteindre l'incendie, quoi. Si on est suffisamment nombreux, on pourra peut-être arrêter une partie du feu. Voilà. Comment ? Voilà, alors donc on vous les donne, bien sûr c'est pas que vous les vendiez sur internet, sur eBay par la suite. Donc, on espère que vous allez garder une certaine déontologie. Voilà. D'autres questions ? Désaccord. Ah oui. Dans les biocopes à l'heure actuelle, il y a celui numéro de ce mois-ci, de février, donc qui traite du problème des semences. C'est gratuit, donc vous allez dans les biocopes ou les magasins bio, et puis vous pourrez l'obtenir sans problème. Donc il y a un dossier à l'intérieur donc, qui traite du problème des semences, donc qui résume un peu une partie de ce que j'ai dit, et puis qui rajoute aussi d'autres renseignements, bien sûr. Voilà. Et après, sur Internet, Réseau de semences paysannes, c'est le site référence qui, justement, vous permettra de vous renseigner un peu plus encore. Voilà. Et puis, il y a aussi un site de la... Donc, je représente l'association Biodiva, qui organise des bourses d'échange de plantes, de graines, donc qui, théoriquement, est partiellement dans l'illégalité. Mais comme c'est... d'après le texte, j'ai vu que c'était considéré comme un club privé. Il n'y a pas de commerce entre nous, donc pour l'instant, on est un peu à l'abri de la répression. Donc, il faut en profiter pour que le mouvement se répande et qu'il y ait un maximum de personnes qui se portent volontaires pour maintenir des variétés. Voilà.
Je voudrais rajouter quelque oui. chose par rapport à l'association. Elle s'appelle Biodiva et on a un site internet. Donc, tu peux donner l'adresse.
Biodiva, ça vient de biodiversité. Biodiversité, donc c'est la richesse qu'on peut trouver au niveau des espèces et des variétés. Alors biodiversité, c'est devenu Biodiva, c'est parce que c'est plus joli. Alors sauf que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui avait déposé la marque en prévision de vendre la marque, donc c'est devenu Biodiva 12 officiellement sur le site, mais entre nous on continue à dire que c'est Biodiva, c'est plus sympa. Voilà.
Si vous tapez dans Google voilà, Biodiva, vous allez l'avoir, il est en tête.
Voilà, Biodiva, le site c'est, il n'y a pas de W, c'est biodiva.free, donc F-R-E-E, liberté, hein, et .fr, free.fr, donc c'est un fournisseur d'accès qui est bien connu et qui nous héberge gratuitement. Voilà, donc c'est un site sur lequel, si vous êtes motivé, vous pouvez demander un compte et écrire des articles. Il n'y a pas besoin de connaître l'informatique pour le faire, c'est très facile, hein, tu peux en témoigner, il y a d'autres personnes qui ont écrit des recettes de cuisine, d'autres c'est les articles sur les légumes, d'autres c'est sur les pesticides, voilà. Et puis bien sûr des informations sur les activités d'association. Donc si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait, vous allez sur le site et là vous aurez les bulletins de l'association, les dates des prochaines bourses, etc. Au niveau des bourses, l'échange est réservé aux adhérents, c'est 5 euros là. Mais bien sûr vous pouvez venir en curieux gratuitement, il n'y a pas de problème. Voilà. On ne pousse pas la consommation. Voilà. Que dire de plus ? Il n'y a pas de questions ?
Pourquoi Biogerme n'a pas volé au secours de Cocopelli, à ma connaissance ?
Voilà.
Parce qu'ils poursuivent les mêmes...
Oui.
Les mêmes buts.
Alors, je dirais Cocopelli. Cocopelli, du point de vue de la communication, de ce qu'il raconte, c'est extrêmement percutant. Ça passe bien dans le grand public.
Sympa, ouais.
C'est sympa, on adhère facilement. Sauf que ils sont très souvent dans la polémique, dans la provoque. Et le problème, c'est qu'il manque de transparence. C'est-à-dire que quand on est dans la polémique et la provoque, il faut avoir les reins solides, c'est-à-dire être intègre et être droit dans ses bottes. Donc on a le droit de se moquer de quelqu'un si soi-même on n'est pas, on n'a pas les mêmes défauts. Je pense que voilà, c'est une règle. Alors donc, je dirais que le défaut de Cocopelli, c'est qu'il manque de transparence. Et puis ils ont prêté le flanc à des attaques et ils ont perdu. Et je pense que la loi les a sanctionnés parce que il manquait de transparence et puis d'intégrité dans certains cas. J'ai dit par exemple, ils vendaient des semences extrêmement chères. Alors j'ai pas parlé du prix des semences. Au fait. J'avais promis ça le premier jeudi en question. Le prix des semences. Quand vous trouvez des paquets bien remplis, pas chers, ce sont bien sûr des variétés qui sont tombées, la plupart du temps, qui sont tombées dans le domaine public. Donc, elles sont toujours tombées dans le domaine public. C'est-à-dire qu'elles ne rapportent pas trop d'argent et puis on ne peut pas les vendre trop cher parce que n'importe qui peut les faire. C'est un peu comme les médicaments génériques. Donc les variétés les moins chères, elles ne sont pas chères parce qu'elles ne sont pas... C'est pas parce qu'elles sont pas chères qu'elles sont mauvaises, c'est simplement parce que on n'a plus le droit de prendre des royalties dessus. Ensuite, vous avez des variétés. Donc ça, c'est les variétés à 1 étoile, les moins chères. Après, vous avez les variétés à 2 étoiles. Celles-là, ce sont des variétés, ce sont toujours des lignées pures, mais dessus, il y a des certificats d'obtention végétale. Donc, pour les vendre, quelqu'un doit payer des royalties à l'obtenteur, à l'inventeur. Donc, pour les vendre, le même prix, si on veut les vendre le même prix, il faudrait... en vendre moins Alors, comme on a envie de semer autant de carottes que sur les autres variétés, bon, on va maintenir des quantités à peu près constantes, mais forcément, puisqu'il faut verser des royalties, le prix de vente aux consommateurs va être un peu plus élevé. Et puis, en dernier lieu, vous avez les semences 3 étoiles, voire 4 étoiles. Et ça, ce sont la plupart du temps des semences F1. Alors, pourquoi sont-elles beaucoup plus chères? Bien, parce qu'il y a un certificat d'obtention végétale. Et en plus, il y a l'hybridation, qui parfois est manuelle. Par exemple, si vous achetez les tomates F1, mais il y a des hybrideurs. Donc, il y a des castreurs de tomates. Donc, les castreurs de tomates sont des gens qui se lèvent tôt et qui repèrent les jeunes fleurs, qui enlèvent toutes les étamines, c'est-à-dire l'espèce de petit chapeau jaune que vous avez sur la fleur. Ils vont l'enlever, donc ils dégagent le pistil. Et puis ensuite, ils vont chercher du pollen sur une deuxième variété, puis féconder à la main ces variétés. Alors, chez le maïs, c'est très connu. Les castreurs de maïs, on a tous fait ce boulot l'été. Ça, c'est très connu, mais donc ça existe pour un bon nombre de variétés F1. Mais heureusement, la technologie, les biotechnologies sont là, et maintenant, de plus en plus, on arrive à créer des variétés mâles stériles. Donc, c'est des variétés qui n'ont plus que le sexe. Donc, les fleurs n'ont plus que le sexe féminin. Et donc, il suffit de les semer en rangées intercalées avec d'autres variétés qui vont donner du pollen. Et là, ces variétés femelles vont obligatoirement donner des variétés F1. Donc, ils nous escroquent un peu parce que ces variétés F1 qui sont toutes seules, ils les vendent aussi cher que celles qui sont faites à la main. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a les 3 étoiles et les 4 étoiles. Voilà. Donc, ça explique un peu le pourquoi du prix des semences. Et alors, plus c'est cher, moins il y en a. C'est-à-dire que quand vous achetez une variété du domaine public, vous avez, mettons, 10 grammes. Quand c'est brevetée, enfin, sous certificat, ben, vous avez... la même quantité mais plus cher. Et puis quand c'est une F1, vous avez 15, 20, 50 graines. C'est-à-dire on vend ça comme si c'était de l'or. Bon, au niveau gustatif, au niveau nutritif, j'en ai pas trop parlé, mais c'est la qualité gustative est inversement proportionnelle au prix, je pourrais dire. Voilà.
Moi j'ai une question, parce qu'on trouve des... Enfin, je suis arrivée en retard, alors que vous avez déjà parlé, mais on trouve des variétés anciennes en très petite quantité, vendues très chères, qui sont notées variétés anciennes réservées aux jardiniers amateurs. Voilà. Et ça, c'est ni des hybrides, ni des obtentions récentes, ce sont des variétés anciennes. Alors,
je parlais de l'association Cocopelli qui vendait des graines. Et justement, dans leur paquet de graines, il y a très peu de graines.
Mais chez Graines Beaumont, ça existe aussi. Ça.
Voilà. Et ce sont des escrocs. Ben non, pas. Pas que je dis ça. Parce que si on comprend bien, eh bien, on fait une variété ancienne. Ben c'est toutes les variétés qui ne sont plus couvertes par le certificat d'obtention végétale. On pourrait dire que ce sont des variétés anciennes. Ce sont des lignées pures. Et elles sont toutes aussi faciles à produire les unes que les autres. Donc il n'y a pas de raison qu'une variété soi-disant ancienne soit vendue plus cher qu'une variété qui est par elle étiquetée ancienne.
Et c'est pas breveté, pourquoi ils mettent réservé aux jardiniers amateurs?
Alors réservé aux jardiniers, ça par contre ça a déjà été dit, c'est parce qu'il y a plusieurs listes. Il y a une liste réservée aux professionnels. En dehors de cette liste, il y a une autre liste que qui vient en supplément et qui permet aux jardiniers d'avoir une variété un peu plus grande de légumes, de fleurs, etc. Voilà, c'est plutôt les légumes que ça touche. Alors, pourquoi je dis escroc? Parce qu'ils en vendent très peu en disant « Oh là, c'est très très rare comme variété, donc c'est très très rare. » Donc la loi de l'offre et de la demande, c'est pas parce que c'est difficile à produire, c'est parce qu'il y a une loi de l'offre et de la demande. Quelque chose qui est à la mode, ben, la première fois qu'on va le vendre, on va le vendre très cher. Et pour les graines, ça signifie vendre très cher, ça signifie en vendre très peu à un prix qui ressemble à celui des autres graines. Mais si on regarde le grammage, c'est-à-dire la quantité, on s'aperçoit que le prix au kilo, c'est incroyable. C'est incroyablement cher. Alors c'est là où Cocopelli se fout un peu de la gueule du monde, parce que quand il vous propose de l'engrais vert moutarde, par exemple, ben, cette moutarde est achetée à un semencier bio en Italie qui produit ça à la tonne, et eux vendent ça au gramme et multiplient le prix par 10 ou 20. On n'est plus dans les rapports 4 ou 7 de la grande distribution, là c'est 10 ou 20, et le problème c'est que c'est une association. Alors là, c'est là où je dis qu'ils ne sont pas super transparents, super clean. Quoi.
Oui, mais est-ce que le procès Cocopelli, ce n'était pas un procès politique?
Ben si, est-ce mais il y a tout qui se mélange. Je veux dire, le problème de Cocopelli, ils ne sont pas clairs. Alors, moi je suis à 100%, à 110% avec leur discours, leur communication, mais pourquoi est-ce que le biogerme et les petites firmes semencières et le réseau semences paysannes, étrangement, ne soutiennent pas plus Cocopelli? C'est parce qu'on rentre en terrain miné. On rentre, donc si on veut soutenir Cocopelli, si on voulait soutenir Cocopelli, il faudrait que Cocopelli soit absolument irréprochable. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire Cocopelli, grâce à sa notoriété, arrive à salarier 15 personnes, ce qui est déjà très bien. Donc il faut faire entrer de l'argent pour les salaires. Soi-disant, ils envoient des semences dans le tiers-monde et tout ça. Bon, très bien, mais je n'ai jamais vu une preuve que ça a fonctionné, tout ça. Ils ont une production de semences à Auroville, en Inde. Il y a des gens qui y sont allés en personne, et c'est un petit peu moins, un peu moins rose que ce que Copelli raconte. Alors, donc, pour soutenir quelque chose, il faut que ce quelque chose soit irréprochable.
Oui, mais tu peux avoir voilà. un procès ce soir parce que tu les as traités d'escrocs, comme eux ont eu un procès, c'est même en fait le.
Alors moi, je pourrais prouver que ce sont des escrocs.
Pour la même raison.
Ben, je pourrais prouver
des. Ils sont en résistance quand même par rapport à un système.
Oui.
Toi, tu l'es ce soir quand tu fais ton intervention.
Mais le problème, chaque fois qu'on me pose la question, moi, j'hésite à répondre, franchement. Parce que est-ce que je dois m'exprimer? Alors, je me suis exprimée en mon nom personnel, mais je connais plein de personnes qui. Comment?
J'espère qu'on aura.
Oui, mais le problème, c'est que je risque de gagner par rapport à Cocopelli, parce que c'est facile de prouver qu'ils vendent certaines variétés en jouant sur le fait qu'eux ne distribuent que des variétés anciennes et menacées, alors que là, dans leur catalogue, il y a énormément de variétés tout à fait banales qui vendent à prix d'or. Ils les vendent 10 fois plus cher que les semenciers bio classiques. Alors, les semenciers bio classiques, bien sûr, le Biogerme, n'ont jamais fait de procès à Cocopelli, ils n'en feront jamais. Parce que justement, ils essaient de garder leurs réserves. Alors, si vous leur posez la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de Cocopelli, ben, ils regardent leurs pieds, regardent le plafond.
Ce qui s'est passé quand je leur demande.
Ils sont très embêtés. Alors, moi, à chaque fois, je me fais avoir et je réponds. Mais bon, voilà.
Sainte-Marthe, il existe toujours.
Alors, la semence.
J'ai abandonné Sainte-Marthe, je trouvais trop cher.
C'est dommage, ils étaient parrainés par. Catherine Deneuve, cette année, ils sont parrainés par Yann Arthus-Bertrand.
C'est un grand communicateur aussi, des brosses.
Mais bon, ils ont un superbe catalogue en couleurs et ils vendent toute la variété en toute petite quantité et très très cher.
Voilà.
C'est de la graine pour bobo, quoi. Voilà.
Mais là où je les soutiendrai
beaucoup plus, c'est qu'ils sont clairs. Ils sont beaucoup plus clairs que Cocopelli, parce que là, c'est une entreprise. Donc, une entreprise qui a but lucratif, avec des salariés qui sont rémunérés, et vous êtes libre d'acheter les semences. Et d'autre part, vous êtes libre d'acheter leurs semences, et puis ils sont soumis à des contraintes, ils respectent la loi. Donc, ils n'ont jamais été attaqués par le GNIS. Ça ne les empêche pas de diffuser quand même.
Elles sont chères, mais elles sont bonnes.
Elles sont chères, mais elles sont bonnes. Enfin bon. Voilà, moi je dirais que à la rigueur, les graines Sainte-Marthe, même si c'est cher, je préfère acheter chez Sainte-Marthe finalement que chez Cocopelli.
J'avais entendu parler de grosses difficultés là. Vous avez pas.
Ouais, mais ça c'est.
Oui.
C'est assez compliqué.
Parce que la ferme devait être cédée par un semencier, je crois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une entreprise. Donc elle a accepté un contrat qui était financé par l'Europe. Donc ce contrat lui était délégué par une firme semencière. Cette firme semencière ne se sentait pas d'honorer ce contrat. Donc la sous-traitée à l'association Sainte-Marthe. Ça n'a pas fonctionné, le projet n'a pas fonctionné. Donc l'Europe voulait récupérer ses billets. Donc l'Europe s'est retournée contre le semencier. Et le semencier s'est retourné contre la ferme Sainte-Marthe, qui est donc en liquidation. Enfin, ils sont attaqués, ils sont menacés de vente. Donc c'est une entreprise familiale qui risque d'être vendue à des semenciers, genre Monsanto, voilà. Donc c'est dommage quand même, c'est vraiment fortement. Alors ils ont été victimes de leur, du désir en fait de grossir, d'être plus puissant. C'est vrai qu'en même temps, si ce genre d'entreprise devient plus prospère, elle a les reins un peu plus solides pour résister justement devant les semenciers. Mais à l'heure actuelle, les semenciers sont devenus tellement énormes. Le budget de Monsanto, ça correspond à plusieurs fois le budget de plein de pays du tiers-monde.
Bien sûr.
Hein, le chiffre d'affaires de Monsanto, ben, ça peut bouffer plein d'États. C'est transnational, c'est énorme, c'est colossal. Sainte-Marthe, bon, ça aurait été bien que ce soit plus gros. Puis là, ils se sont cassés les dents, quoi. Voilà. Mais bon, l'affaire est assez complexe, quoi.
J'ai rien biché.
Alors, je dirais, si vous voulez acheter des graines. De variétés anciennes, bon, en priorité, Sainte-Marthe, c'est bien, quoi, ça va les aider. Si chacun achète un petit peu, bon, voilà. Et puis après, Cocopelli, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je suis désolée d'avoir répondu à la question. J'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Oui.
On parlait des pommes de terre. J'ai l'impression, au fur et à mesure des années, que les patates que je ressème moi-même, à partir d'achats de l'année d'avant, oui, sont de moins en moins reproductibles. Et je me demandais si les semenciers n'étaient pas en train de fabriquer des patates genre Terminator, quoi. Non, ça peut être qu'une impression.
La pomme de terre, c'est un cas particulier. C'est considéré comme une semence, alors qu'en réalité, c'est un morceau de racine. C'est une réserve racinaire. Donc, la pomme de terre, c'est un clone, comme les variétés de fraisiers qui se reproduisent par stolon ou in vitro, etc. Donc, c'est un individu unique qu'on a. C'est comme si on l'avait bouturé. Donc, la pomme de terre, dans des conditions particulières, va se reproduire à l'identique indéfiniment. Alors pourquoi dans nos jardins on voit que les pommes de terre ont tendance à diminuer en rendement et ça peut être dû à des maladies virales. Le virus, on ne se rend pas forcément compte qu'il est dans la patate, mais il y est. Il peut y en avoir un, puis deux, puis trois, puis quatre. Alors sur l'ail, ça existe aussi. Sur des tas de plantes qui se reproduisent comme ça de manière végétative, c'est-à-dire par clonage, eh bien il peut y avoir accumulation de virose. Ça ne se voit pas à l'œil nu, enfin, les professionnels peuvent les repérer. Et donc, il y a nécessité de régulièrement régénérer ces plantes. Donc, pour cela, on fait de la culture in vitro. On s'aperçoit que dans les bourgeons terminaux, c'est-à-dire les bourgeons à la pointe des racines et la pointe des tiges, il y a une zone qu'on appelle le méristème qui croît très rapidement et qui avance plus vite que la propagation des virus. Donc, il y a des techniques qui permettent de récupérer dans cette zone qui est préservée de virus, qui possède le génome de la plante, et donc on peut régénérer la plante, débarrasser des virus. Donc pour les pommes de terre par exemple, ils ont obligation, les obtenteurs, de faire ce travail d'épuration tous les 7 ans. Donc pendant 7 ans, la semence certifiée, elle est reproduite en champ, on fait des analyses dessus pour vérifier qu'il n'y a pas trop de virus, mais malgré tout, tous les 7 ans, il y a une régénération in vitro. Donc ça coûte relativement cher. Mais bon, voilà. Après, ils sortent des variétés de tomates, à peu près de patates, tous les ans. Vous avez remarqué, il y a des variétés qui disparaissent, puis d'autres qui arrivent. Ben ça, c'est simplement parce que le certificat d'obtention végétale, on a vu, c'est un tiroir-caisse. C'est une fois qu'on a créé une variété, surtout la patate, puisque c'est reproduit à l'identique, eh bien, on est sûr de la reconnaître lorsqu'elle se trouve dans le champ de personne, donc on peut attaquer pour contrefaçon. Et donc, comme c'est une variété dite pérenne, pendant 30 ans, l'obtenteur de la pomme de terre va toucher de royalties. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils essaient de sortir. Enfin, c'est une des raisons qui font qu'ils essaient de sortir en permanence de nouvelles variétés. Mais c'est comme les industries pharmaceutiques, ils essaient en permanence de sortir de nouveaux médicaments pour avoir touché des royalties sur des molécules qui n'existent pas encore sous forme générique. Voilà. Donc, alors, il n'y a pas que cette raison, il y en a qui vont me dire, je caricature. En fait, ils essaient aussi de faire une course par rapport aux maladies. Les variétés qui étaient résistantes au mildiou il y a 10 ans, à l'heure actuelle, sont sensibles au mildiou. Parce que entre les plantes et les parasites, et les insectes et compagnie, les prédateurs, il y a toujours une adaptation, ce qu'on appelle une coévolution. Donc si une plante résiste, parmi les prédateurs, il y a beaucoup de mortalité, il y a un affaiblissement, mais parmi la population de prédateurs, il y en a quelques-uns qui sont adaptés à la nouvelle variété, et donc qui vont pulluler, et puis donc qui vont rendre la nouvelle variété de nouveau sensible. Et puis on crée une nouvelle variété qui est de nouveau insensible, et ainsi de suite. Et c'est une course-poursuite entre l'hôte de la maladie et la maladie. On le connaît très bien avec les antibiotiques, ça. Voilà, c'est une course permanente. Voilà, sans fin. C'est la nature, quoi. Voilà. Donc il y a d'autres façons d'agir. Donc les patates, il faut peut-être accepter que les rendements diminuent un peu. Voilà. Pour les variétés anciennes, on n'a pas le choix, quoi.
Ils viennent de sortir une patate Carlita.
Oui.
C'est vrai. Carlita. J'ai entendu ça.
Elle résiste à tout.
Aujourd'hui.
Elle résiste à tout.
Il y a un poire au milieu.
C'est vrai. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
Rapport au Carla.
Carla. Patate de Sarkozy.
C'est patate de Sarkozy.
Sarkozy, ce sera l'année prochaine.
C'est vrai, hein.
d'accord.
Dans la mer tout signe, ils ont
dans la mer toutes les sources.
Pourquoi je pas
la
blague, c'est pas la Sarkozy.
Ça existe depuis longtemps, ça.
Ah ouais, ah
Sarkozy. Ouais, j'en ai commandé pour mon labo, de la Sarkozy. Je l'ai acheté, ça coûte très cher d'ailleurs. C'est un produit de luxe.
On peut répéter,
la sarcosine, il y a un produit qui s'appelle la sarcosine.
Et ça sert à quoi?
C'est un détergent un peu spécial qui sert à purifier les ARN messagers lorsqu'on fait de la transcription inverse. En sens, si vous venez à mon cours, je vous expliquerai.
Les ARN messagers.
Ça pulvérise.
Non, mais c'est un produit chimique qui sert dans les expériences de génie génétique, surtout au niveau analyse, quoi.
C'était pas destiné.
Bon. Ça va ?
Est-ce que tu pourrais nous dire pour quelle variété il est facile d'obtenir soi-même ces graines, les variétés potagères ?
Si vous voulez commencer, alors, si vous voulez pirater les semences du commerce, donc vous commencez par les laitues. Donc vous pouvez avoir autant de variétés de laitues que vous voulez. Ce sont des fleurs jaunes. Souvent, c'est des fleurs jaunes, ça fait des graines blanches ou noires. Et lorsque vous voyez apparaître un petit plumet, c'est que les graines sont mûres. Donc il suffit de secouer, donc vous battez, vous prenez une poubelle ou un récipient, vous battez donc les inflorescences sur le récipient, et puis tout ce qui est mûr, ça va tomber dedans. Donc vous repassez plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites plumes, donc vous aurez vos graines de salade. Vous pouvez avoir des dizaines de variétés dans votre jardin sans problème. Oui.
Les laitues, pas les salades.
Les laitues.
Pas les salades. Les laitues. En
général. Les chicorées, non, ça ne marche pas. Chicorée, il existe des chicorées. Alors, plusieurs espèces de chicorées. Il y en a une qui est sauvage dans notre région. Vous voyez, bord des routes, des jolies fleurs bleues. Ce sont c'est une des variétés de chicorées. Et donc, elles peuvent se croiser avec les chicorées que nous, certaines chicorées qu'on a au jardin. Après, il y a d'autres chicorées, d'autres espèces qui n'existent pas au jardin. Si vous avez une seule variété, c'est bon. Et si vous êtes suffisamment isolé de vos voisins, et si vos voisins eux-mêmes ne font pas de graines. Alors, donc, les laitues. Ensuite, les haricots verts, haricots grains. Vous pouvez avoir une collection de haricots. Alors, il y a des hybridations de temps en temps. Ces hybridations vont donc donner des F1, puis des F2, puis des F3. Et vous pouvez donc fabriquer vous-même vos variétés par le hasard. C'est-à-dire, vous semez une variété de salade qui normalement est verte. Et puis, il y en a une qui est jolie avec des belles beaux reflets rouges. Vous avez là l'ancêtre d'une future variété que vous allez pouvoir nommer. Et dire, ben, ce sera la belle de Jean Ducos, etc. Voilà, vous allez lui donner un nom. Comment ? Ben, si vous voulez l'inscrire, ouais. Plus de 1000 tous les 10 ans. Mais si vous ne l'inscrivez pas, vous la donnez en douce à vos voisins. Cette variété, elle est belle, donc elle est adaptée à votre terrain. Donc, finalement, ben, tout le monde dans les environs va avoir cette variété-là. Et puis quand le climat va changer, elle ne va plus être adaptée, mais heureusement, il y a un voisin qui aura fait comme vous et qui, lui, aura une nouvelle variété, et ainsi de suite. On va finalement revenir un petit peu aux temps anciens. Donc la laitue, les haricots, la mâche, vous pouvez avoir plusieurs variétés de mâche, et aussi laisser se ressemer la doucette, la mâche sauvage. Les mâches ne s'interfécondent pas, ou très peu. Il y en a encore une quatrième. Le ça, alors non, le poireau, non. Le poireau, si vous avez plusieurs variétés de poireaux, ah bah oui, ça se croise. Mais comme il y a peu de gens qui laissent monter les poireaux, si vous avez une variété de poireaux, vous la laissez monter à graines et vous aurez vos graines de poireaux en abondance. Alors avec une salade, vous avez un demi-bol de graines. Un demi-bol de graines, il y a de quoi semer 2-3 000 mètres carrés de salade. Donc je pense que vous avez de quoi en donner à vos voisins, à votre famille, etc. Puis en plus, ça peut se conserver plusieurs années. Donc si ça se conserve plusieurs années, par exemple les poireaux, ben, vous avez 3 variétés de poireaux, une d'hiver, une de printemps, une d'été. Eh bien, si la graine se conserve 2-3 ans, eh bien, chaque année, vous ferez fleurir une des 3 variétés. Comme ça, vous serez sûr qu'elle ne se mélange pas. D'accord ? Donc, on peut avoir plusieurs variétés de plantes qui se mélangent entre elles, mais il suffit de faire la graine de manière décalée. Donc les radis, les choux, tous les légumes de cette famille-là, ils se croisent très facilement. Donc on va avoir, mettons, plusieurs variétés de radis, et donc on va les faire fleurir à tour de rôle. À peu près, la fréquence, c'est tous les 3 ans. Donc on peut avoir 3 variétés de radis au jardin qu'on fait fleurir. Et puis les autres qu'on aime aussi, eh ben on va les confier à un voisin ou un copain qui habite beaucoup plus loin. Alors pourquoi ces plantes se croisent? Eh ben elles ont, génétiquement, ça se passe comme ça. Et puis surtout, souvent, c'est que les insectes sont les vecteurs de pollinisation et les insectes, les abeilles font du chemin. Les insectes, les bourdons. Et donc, ben, il faut isoler les porte-graines. Sinon, les insectes peuvent franchir les distances et puis aller transmettre, donc faire des croisements donc entre des jardins. Donc, dans l'Aveyron, on a énormément de chance. Il y a beaucoup d'originaux qui habitent dans des endroits isolés. Et donc, ce sont des gens qui, potentiellement, peuvent être de bons producteurs de semences. Donc, laitue, haricots, mâche. J'en ai oublié un aussi qui est assez classique. Tomate, oui, bien sûr. Tomate. Sous nos climats, la tomate est pratiquement autoféconde. Alors, il peut y avoir des risques d'hybridation sur la tomate qui sont un peu plus fréquentes que chez les autres. Il suffit, si on veut être sûr qu'il n'y a pas de problème, on met un sac en papier craft sur les fleurs quand elles sont toutes petites et qu'elles ne sont pas encore bien formées. Et puis, on secoue tous les matins, on secoue. Si le vent travaille, ça va se secouer tout seul, ça s'autoféconde. Et puis, comme on a enfermé les fleurs dans un sac, on est sûr que les insectes ne sont pas venus sur ces fleurs. Parce que certaines fleurs, pas toutes, mais certaines fleurs ont le pistil qui dépasse. Alors que d'habitude, chez la tomate, le pistil, il est sous une petite teinte jaune. Vous voyez la fleur? On a l'impression de voir une pointe jaune, ce sont les étamines. Et le pistil, il est planqué dessous. Mais chez certaines variétés, le pistil, il sort, donc c'est l'organe femelle. Souvent, c'est les grosses variétés qui ont des grosses cicatrices. La cicatrice, c'est un reliquat du pistil. Et quand il y a une grosse cicatrice, on a un gros pistil et qui a tendance à sortir de la fleur. Donc chez ces variétés, il y a un risque de croisement. Donc si on veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas de croisement, on peut les préserver quelques fleurs. Et après, il faut mettre un petit nœud coloré sur la branche de fruits pour se dire que les graines viendront de ces fruits-là et pas des autres. Voilà, donc ça, si on avait peur. Bon, c'est quand même, les croisements sont relativement peu fréquents. Et puis finalement, c'est une aubaine parce que ces croisements sont à l'origine de toutes les nouvelles variétés.
Peux-tu expliquer comment on peut récupérer les graines de tomates?
Oui, voilà.
Alors, les graines de tomates sont entourées d'une pulpe gluante. Et il faut l'enlever, cette pulpe gluante. Alors, il y a plein de méthodes. On les passe au mixeur avec un couteau, pas trop violent. Ça blesse la pulpe. Après, on tamise. Et bon, voilà. Bon, là, c'est un peu aléatoire. La deuxième méthode, c'est la méthode des maraîchers, c'est-à-dire la méthode traditionnelle. Eux, ils jettent leurs tomates pour semences dans des grosses barriques et ils laissent fermenter comme du vin. La fermentation va faire se développer des bactéries et des champignons qui vont digérer cette pellicule. Alors nous, il est hors de question qu'on sacrifie les bonnes tomates, les quelques tomates qu'on a au jardin. Donc on mange les tomates, mais on trie les graines avec un peu de jus. Et on les met dans des petits pots. Au bout de quelques jours, se forme une espèce de gâteau en surface où on a les graines mélangées avec des bactéries et des champignons. Il y a une peau blanche qui se forme en surface. Ce sont les mêmes levures qu'on retrouve sur les fromages, donc c'est tout à fait inoffensif. Et ces petites bêtes vont se nourrir et digérer la pulpe qui est autour des graines. Donc ces graines, au début, elles montent en surface, elles forment une espèce de gâteau. Si vous touillez, au bout d'un certain temps, la pulpe est digérée. Les graines vont devenir plus denses et elles tombent au fond. Donc quand vos graines sont majoritairement tombées au fond du pot, ben, on va les laver à grande eau dans un tamis, on les met à sécher au soleil pour que ça sèche assez vite. Et puis voilà, vous avez des jolies graines bien propres, exactement comme celles que vous avez dans les paquets. Oui.
Ce que j'ai fait, moi, c'est de mettre les graines, quand on mange les tomates, sur du sopalin.
Voilà.
Oui. Et j'écris ce que c'est, et après je plante directement le.
C'est la méthode du tapis pré-semé.
Oui, mais le sopalin colle, quoi, maintenant je fais sur les vieux chiffons.
Ah oui,
et ça se décolle. Le sopalin, je le fais sur des vieux chiffons, et comme ça on peut décoller. Alors, qu'avec le sopalin.
Si on ne travaille que pour soi, l'histoire du sopalin ou du PQ, c'est très bien. Donc la graine en séchant, la pellicule va se dessécher. Donc la graine, elle va pouvoir germer facilement. Donc vous découpez des petits bouts de papier sur lesquels il y a les graines, vous les mettez directement à la surface du pot et ça germe très bien. Mais par contre, c'est pas adapté si on veut échanger les graines, si on veut en droner à droite à gauche. Ça présente pas bien, quoi. Mais on est encore dans un monde où même quand on donne quelque chose, il faut que ce soit joli. On a toujours ces habitudes de consommateur, quoi, disons. Voilà. On a du mal, même quand on nous donne quelque chose, on a envie que ce soit joli.
Oui, citrouilles, courges, courgettes.
Alors, c'est des cucurbitacées. Énormément. Ouais. Voilà. Alors, il y a plusieurs espèces de courges. Alors, la définition d'une espèce, c'est que deux individus peuvent s'hybrider, mais n'ont pas de descendance. Et souvent, même, il y a une barrière interespèce, il n'y a même pas de fécondation croisée. Donc, vous avez l'espèce correspondant aux courgettes. C'est la même espèce que les pâtissons. C'est la même espèce que la courge spaghetti. C'est la même espèce que les coloquintes, ce qu'on appelle les coloquintes. Ce qui veut dire que si votre voisin dans le village à 50 mètres a une collection de coloquintes, donc la coloquinte, c'est quelque chose qui est sélectionné pour être joli et surtout très dur, avec une peau épaisse. Au niveau de la chair, il n'y a rien à manger. C'est très fibreux et c'est très amer, comme la, comme la courge sauvage. Voilà, c'est très proche de la sauvage. Si ça s'hybride,
ça dépend des J'aime les trucs.
Alors il y a la courge à coutor qui est comme une coloquinte mais qui se mange. Voilà. Alors donc c'est la même espèce, ça se croise et vous avez de fortes chances d'avoir la fois suivante des choses un peu bizarres au niveau forme. Et très souvent c'est filandreux, dur et très amer. Voilà, donc les hybrides là sont très gênants. Donc si dans votre jardin vous n'avez aucune coloquinte et si vous êtes éloigné de tous les autres jardins, le pire que vous pouvez avoir, c'est une hybridation, mettons, entre courgette et pâtisson. Vous allez voir un truc intermédiaire. Un F1, une variété F1 intermédiaire, que vous ressemez, qui va redonner encore des tas de trucs différents. Mais ça pourra se manger, avec un goût qui est très aléatoire, mais mangeable. Donc ça, c'est la première espèce, la plus problématique. Après, la deuxième espèce, c'est des fruits de forme assez variable, mais qui ont tous en commun un pédoncule très charnu, très épais. Donc ça, c'est le potiron, le vrai, le giromont, le giromont et les potimarrons. Donc si vous avez des potimarrons et des potirons dans le même jardin, il y a de fortes chances que l'année suivante, si vous ressemez, vous aurez un intermédiaire. Mais dans ce cas-là, c'est pas trop grave. Vous allez avoir quelque chose qui est bon, qui est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il y aura un goût qui peut être intermédiaire entre le potiron et le potimarron. D'ailleurs, si on regarde bien, ça se ressemble beaucoup. Voilà. Donc, vous allez créer une variété F1. Si l'année suivante, vous ressemez, ben, vous garderez les graines que de quelques individus que vous ressemez, et ainsi de suite. Et petit à petit, si vous n'avez que ces graines-là et cette variété-là, ça va devenir votre variété à vous. Et en fonction des caractères que vous avez sélectionnés, genre, vous ne gardez les graines que sur les fruits qui vous plaisent au niveau goût, eh bien, vous allez créer votre propre variété. Donc par exemple, le potimarron, imaginons que vous trouvez que c'est trop fort et que le potiron c'est trop faible, ben vous allez créer une variété qui correspondra à votre goût. Voilà. Et vous allez l'appeler la variété Valentine du Larzac. Ou...
Si
tu
n'as pas voulu faire voilà. Financier, rachète, te pique ta graine, ta brevette, et toi tu pourras la cultiver.
C'est vraiment bon.
Complètement potimarron.
Ouais, mais bon, ils en ont assez des collections. Ils nous méprisent tellement de toute façon qu'ils vont pas aller voir ce qu'on fait. Hein. On est tellement minuscule, minable. Ils n'ont pas fait de satellites pour nous surveiller quand même. Hein.
Les pommes de terre font des fleurs. Est-ce que ces fleurs sont stériles? Est-ce qu'il y a moyen de reproduire les pommes de terre?
D'où viennent les variétés de pommes de terre? C'est la question.
Oui, par exemple. Et est-ce qu'il est possible
de deux variétés qu'on a fait fleurir et qu'on a croisées. Donc chaque variété de pommes de terre est issue d'une graine de pommes de terre.
Mais tu parlais des pommes de terre qui petit à petit deviennent sensibles au virus au fur et à mesure qu'on les ressème. Est-ce que c'est possible de les régénérer en faisant une reproduction par les fleurs?
Non. Parce que leur...
C'est pas auto-fertile?
Ça peut, mais dans ce cas-là, comme c'est assez riche au niveau génétique, l'enfant ne va pas ressembler aux parents. Les pommes de terre, c'est un peu comme nous. Quand on fait des enfants, ils ne nous ressemblent pas copie conforme. Les tomates, par contre, elles sont carrément assez. Elles sont assez gogoles, les tomates. Elles sont un peu très, très consanguines, quoi. Mmh. Hein? Voilà. Et si on ressemble une variété de tomates, elle ressemble énormément aux parents parce que il n'y a plus beaucoup de possibilités génétiques. C'est une sorte de cul-de-sac génétique. Et la lignée pure, c'est une variété très consanguine. Donc les laitues, les tomates, etc., ce sont des espèces. Qui sont assez affaiblis par le fait qu'il y a peu de variabilité. Quoi. Bon, par contre, la pomme de terre, puis toutes les variétés de courges, elles se mélangent depuis très longtemps et elles sont faciles, elles se mélangent entre elles, donc il y a des combinatoires incroyables. Donc les pommes de terre, par exemple, quand on veut créer une nouvelle variété résistante au mildiou, on va croiser deux variétés qui sont peut-être plus résistantes au milieu, mais en les mélangeant, on va refaire des nouvelles combinaisons qui font que le parasite ne s'y reconnaît plus. Il ne trouve plus les mêmes portes d'entrée qu'avant, donc ben, il a du mal à rentrer dans la plante. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on sème des tas de graines, on fait des tests en champ, et puis ben, on élimine drastiquement tout ce qui crève à cause du mildiou, et puis on ne garde que les plus beaux plants, les plus résistants. Et ces plus beaux plants, après, on va les multiplier in vitro. Alors, pour donner une idée, avec une patate, on fait 100 000 patates en une année. C'est très rentable. Donc, dès que vous avez mis au point la variété, par culture in vitro, on va en produire autant qu'on veut quasiment.
Et à partir de la chair ou à partir du germe ?
On prend un tout petit bout de germe, et on le multiplie in vitro, ça forme une espèce de tumeur indifférenciée qu'on va couper autant de fois qu'on veut. Donc on met ça sous une lumière artificielle avec des engrais chimiques. Ça pousse très 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 vite. On divise. À chaque fois, ça fait des petites tumeurs qu'on divise. Et quand on veut, on met ce qu'il faut comme cocktail d'hormones pour faire des feuilles, pour faire des racines. Tac. Et on obtient la patate. On force la nature, mais on ne fait que... Comment dire ? On ne fait que... C'est un peu comme les sportifs, quoi, qu'on veut un peu plus costaud, on met les hormones qu'il faut, et puis ça fait des sportifs encore plus costauds, quoi. Mais c'est pas des OGM, nos sportifs, hein. Voilà. Ils sont piqués aux OGM, bon, aux produits d'OGM, mais bon, c'est naturel, c'est... Mais on est tous dopés, là, même sans le savoir. Chaque fois que vous mangez dans une assiette en plastique ou un gobelet en plastique, vous avalez des phtalates, c'est-à-dire des produits chimiques qui ressemblent à nos hormones et donc qui vont hormonalement vous modifier. Ça explique le fait que la fertilité masculine, elle n'arrête pas de se casser la figure. Et donc, on a une courbe qui diminue. On a une courbe qui diminue au niveau fertilité masculine. Si on extrapole, c'est-à-dire qu'on la prolonge, en 2050, il n'y aura plus un seul être humain capable de se reproduire de manière naturelle. C'est pas loin en 2050. Ben, c'est-à-dire que c'est une extrapolation, c'est-à-dire que c'est toujours
faux. Moitié déjà.
Voilà. Alors, de moitié, à un moment, on arrive presque à zéro, quoi.
Moitié
voilà.
En 30 ans.
Ouais.
J'avais une question là-bas.
Ouais.
Quelle est la meilleure façon de conserver ces graines d'une année sur l'autre ou plus,
au sec, au froid et loin du plastique et de toutes les colles et tout ça. C'est-à-dire que si vous avez des jolies boîtes en agglomérés. Ces agglomérés sont faits à partir de colle. Ces colles libèrent du formaldéhyde. Et le formaldéhyde, vous avez vu ça dans les musées, c'est ce qui permet de conserver, mais mort, voilà, de momifier les animaux, donc, ou les vipères dans les bocaux. Donc, tout ce qui est colle, enfin, tout ce qui est plastique et qui peut libérer des substances nocives, faut pas le mettre au contact des graines. Donc, les petits sachets en plastique pour les graines, c'est pas une bonne solution. Donc, c'est la meilleure solution, c'est le papier. Parce que le papier laisse passer l'air et l'eau. Il faut que ce soit assez sec, un environnement assez sec, mais pas trop sec. Il y a certaines graines qui aiment bien être un peu humides. Donc là, après, c'est du cas particulier. Il faut chercher les bouquins qui expliquent tout ça. Donc le bouquin qu'on a cité tout à l'heure, il donne pas mal d'infos. Et puis, si on a que ça à faire et puis un peu d'argent, on peut congeler ces graines. C'est-à-dire que c'est ce que font les professionnels. Ils congèlent leurs graines et ça va énormément augmenter leur durée de vie. Alors une graine, contrairement à ce qu'on a l'impression de voir, une graine c'est vivant, ça respire. Et même, alors il y a quelques jours je ne croyais pas du tout à la Lune et puis j'ai lu des articles scientifiques qui ont fait des expériences qui ont prouvé qu'il y a une très légère pulsation, donc on a statistiquement on a fait des études. Alors c'est infime, c'est-à-dire, si on ne respecte pas la Lune, on a quand même des récoltes. Mais si on respecte la Lune, il y a quand même des influences. On a observé que débarrassé de toutes les autres influences, on pouvait mesurer des choses. Donc si on regarde les graines, eh bien, on voit qu'elles pulsent, elles ont un rythme, elles sont vivantes. Voilà. Si vous les refroidissez, vous allez ralentir le mouvement des molécules, donc cette pulsation ralentit, la respiration ralentit, elles épuisent plus lentement leur réserve, et vous allez prolonger. Alors l'idéal c'est de les mettre dans l'azote liquide et là on est descendu tellement bas que les réactions chimiques s'arrêtent presque totalement et donc le vieillissement s'arrête et donc on a quelque chose qui est quasiment immortel. Voilà. Alors chez vous, à la cave, au frais, dans des bocaux pour éviter que les souris et l'humidité rentrent. Voilà.
des bocaux, mais...
En verre.
On les met pas sous vide.
Ah non, non, parce qu'elles respirent, les graines. Mais elles respirent très peu, alors le peu d'air qu'il y a dans le bocal, ça suffit, quoi.
Tu veux dire azote liquide, si tu veux dire, comment on les conserve? Parce qu'on ne peut pas les laisser à l'azote liquide, apparemment.
Les semenciers, ils ont... Non, mais ça, non. Ils le font, eux, dans des congélateurs à moins 20, voire moins 40. Mais au-delà, ça ne vaut pas le coup.
C'est 80, quand même.
L'azote liquide, c'est beaucoup plus froid. Donc, si on voulait vraiment les conserver ad vitam aeternam, c'est l'azote liquide l'idéal. Mais déjà, à moins 20, c'est déjà pas mal.
Là, ça ne gèle pas une graine.
Elle est sèche. Elle est sèche, donc il y a trop peu d'eau pour que des cristaux d'eau se forment et détruisent les tissus. Donc on peut. Alors les haricots, si vous les produisez vous-même, et si vous voulez faire aussi des petits pois qui peuvent se ressemer eux-mêmes aussi, enfin, se conserver, petits pois haricots, dès qu'ils sont bien secs, vous les passez au congélateur une ou deux journées, dans une boîte, bien sûr, pour pas qu'il y ait de condensation d'humidité. Et la congélation va tuer les bruches, c'est-à-dire ces petits insectes qui pondent dans les haricots et les pois. Et si vous faites rien, ça va grouiller, ça va tout détruire. Donc le passage au congélateur va les...
Tu mets des feuilles de laurier, dedans.
Voilà, alors vous pouvez mettre des feuilles de laurier. Comment ?
Les petits pois doivent être semés dans le premier quartier d'île pour éviter le ver.
Ah ouais.
Voilà. Donc dans... À propos de la lune, bon, c'est... Là, je ne suis pas un spécialiste, mais... Il y a un fond de vérité, quoi. Comment ?
On peut le mettre sous vide, les pois ?
Ben, sous vide, c'est sans oxygène et elle a besoin de respirer.
Oui, mais il y a plus de limon, à ce moment-là. Il n'y a plus aucun organisme.
S'il y a une méthode qui consiste à brûler un coton dans le bocal, ça enlève l'oxygène et ça le remplace par du CO2. Apparemment, ça n'affecte pas trop la durée de germination et tout ça.
Enfin, moi, j'ai eu des pois où il y avait un trou à chaque pois et ça produit des pois. C'est pas gênant.
Il ne faut pas que ça prolifère quand même. Hein.
Enfin, il ne faut pas qu'il y ait que dans le fond au fond, mais
voilà.
J'avais le poids, ils étaient tous trouvés. J'étais surpris.
Non, mais ça marche.
À ma vie, ça pousse.
Ouais.
Je l'ai fait.
Mais enfin, un petit coup de congélateur, c'est.
Ouais.
Hein,
ouais, ouais.
C'est-à-dire que le trou est encore plus petit, quoi. Mais quand le trou fait toute la graine, il n'y a plus de graine. Voilà. Bon. S'il n'y a pas de questions, ben, vous allez pouvoir récupérer vos graines. Oui. Mais si elle respire, pourquoi?
Elle respire dans le congélateur aussi.
Oui, mais très 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 doucement. Elles sont comme des yogis, quoi. Elles ralentissent leur rythme et puis.
C'est une hibernation.
Voilà.
Ça va vite.
Ah non, mais avec un petit poids, c'est quelques jours au congélateur et on peut les ressortir après. C'est juste pour tuer les bestioles. Sinon, si on veut vraiment faire une sémiothèque, c'est-à-dire aussi une banque de... C'est pas une sémiothèque, non, c'est une... Si, c'est ça. Enfin bon, un truc dans le genre. Donc, vous pouvez avoir un congélateur spécialisé. Vos graines, elles restent tout le temps dans le congélateur. Dans ce cas-là, leur durée de germe... Enfin, vous pouvez, dans ce cas-là, collectionner plein de variétés. Vous en faites une chaque année. Et puis, tous les 15 ans, vous ressemez celle que vous aviez faite il y a 15 ans. Enfin, vous refaites fleurir celle il y a 15 ans, parce que le congélateur va prolonger la durée germinative. Voilà. Comment ?
On devrait le faire avec les graines de tomates de l'hiver aussi, qu'on n'arrive pas à consommer, à faire la graine et tout préserver.
Ben pourquoi dans mon congé, elle n'est pas le tien? Ben voilà, c'est ça. Moi, je vais payer l'électricité. Mon congé, elle n'est pas toi. Alors. C'est ça, hein. L'art de déléguer. Merci de la suggestion. Bon, mais je t'amènerai la collection, alors. Tu réserveras un volume à peu près comme ça. La moitié du congélateur, ça suffit. Bon, on peut là, ouais. Quand l'association comptera 1200 membres, on achètera un congélateur.
Et on en est à combien de membres ?
Comment ?
Pour info, il y a combien de membres ?
Il y a un peu moins d'une centaine de gens à jour de cotisation. Et 250 personnes qui, un jour ou l'autre, ont adhéré, et puis ont oublié de venir à la bourse suivante et n'ont pas réadhéré, ainsi de suite. Bon, c'est une association qui ne court pas après l'argent, donc voilà. On n'a toujours pas de salariés parce qu'on n'a pas de couleur donnée. Donc, prochaine bourse aux semences. Non, prochaine bourse aux plantes, c'est le vendredi 6 mars. C'est une première. Ça se passe à Cassagne-Bégognès, c'est-à-dire une première à cet endroit-là. C'est en semaine, on ne l'a jamais fait. parce que quand on n'est pas libéré en semaine, on ne peut pas y aller à ce genre de course. Donc ce sera lieu lors du marché de Cassagne-Bégognès, donc vendredi 6 mars. Et donc là, il faut venir avec ses surplus de boutures, de plantes, de fraisiers en trop, de cassis, de voilà tout le surplus, tout ce qui va partir au compost si vous le donnez pas à quelqu'un. Donc on peut venir avec ça et puis ça permet de faire des échanges, ça mange pas de pain. On peut donner des graines contre des fleurs ou des fruits ou voilà, on échange tout ce qu'on veut. Donc Cassagne-Bégognès donc très bientôt. Ensuite il y en aura une à Decazeville en avril. Donc ça vous le trouverez sur le site biodiva.free.fr. Le 1er mai, je pense que je peux le dire. Non, c'est qui monsieur Claude. Claude. Donc le 1er mai, a priori, il y aura une bourse à Salles-la-Source. Donc le 1er mai, c'est un vendredi, mais c'est férié. Donc juste après la manif du matin, vous pourrez venir échanger des plantes l'après-midi à Salles-la-Source. Et puis ensuite, au courant du mois de mai, il y aura d'autres bourses à d'autres endroits. Ce qui permet de, si on fait l'impasse sur une bourse, on peut aller aux autres. Voilà. Bon, le but étant quand même d'essayer de consommer local et d'échanger local. Donc, si vous n'habitez pas dans les secteurs où existe une bourse, rien ne vous empêche d'en créer une. On essaie d'encourager un maximum de groupes à créer leur propre bourse. Donc, il y en a une à Golinac, une à Saint-Comdolt, dans le secteur d'Espalion. Il y en a une indépendante aussi à Villefranche. Donc le but de l'association, ce n'est pas de créer des bourses et de toutes les gérer, c'est surtout d'encourager les gens à le faire. Et donc ça peut être des associations externes qui en font. Et la Biodiva se chargera d'essayer de coordonner tout ça, quoi, pour créer un réseau. Voilà. À terme, même si Biodiva se dégageait complètement d'organisation, je serais fort aise. Bon. Et si vous voulez devenir actif dans Biodiva aussi, on va essayer de mettre en place des petits groupes de 1, 2, 3 personnes qui vont prendre en charge un projet particulier. Voilà. Parce que dans nos statuts, il y a 15 lignes. Quand on a, avec Philippe, on a créé l'association, on a créé 15 ou 20 lignes de projets. Bon, on a réussi à en mener à bien un et un petit peu le deuxième. Et puis.
Ouais. Mmh. Notamment un petit journal papier pour les gens qui n'ont pas d'internet. Mmh. Et puis venez nous voir, on va en discuter, il y a plein de choses à faire et voilà. Donc à votre choix, quoi.
Ceux qui ont internet, si vous voulez avoir des informations fraîches, il faut aller sur le site. Alors, ceux qui n'ont pas internet, donc je vous ai donné deux dates, il y a le 6 mars, le 1er mai. Et puis on essaie dans les journaux des fois de communiquer. Alors des fois ils passent pas les annonces, mais dès que vous repérez qu'il y a quelque chose et que vous pouvez venir, venez. Et là vous pourrez vous inscrire si vous n'avez pas internet. Ensuite on vous enverra des courriers papier. Voilà. Bon, internet on adore parce qu'envoyer 150 courriels, c'est clic tac, c'est parti. Et envoyer 150 lettres, c'est... Voilà, vous avez compris. Donc, bon, internet, ça a ses défauts, mais les qualités, c'est. Voilà.
Ils en font des autocollants en détail.
Oui, ça y est, on a acheté des autocollants, c'est pas plus cher que les autres. Mais il faut quand même. Il faut les décoller, les poser, et puis il faut imprimer les. Enfin, il faut, fallait écrire les enveloppes à la main, on a acheté une imprimante, donc déjà, c'est un progrès.
Il faut les photocopier.
Il faut photocopier les papiers.
Ça a un coût.
Ça a un coût, bon, qui n'est pas. Les 5 euros d'adhésion couvrent l'assurance, à peu près, l'assurance, ça représente à peu près 1 euro. C'est 1 euro, c'est-à-dire on est obligé d'être assuré dès qu'on fait des manifestations publiques. Et puis après le reste, eh ben, ça permet de faire des dons éventuellement, d'acheter un peu de matériel, acheter les timbres, les enveloppes, etc. On n'est jamais en déficit, mais on n'est jamais très riche, quoi. On n'a jamais dépassé 500-600 euros de trésorerie, quoi. Ce qui est pour pas terrible, hein, pour une association. Nous sommes fiers d'être minables. Voilà.
C'est une belle conclusion.